Bienvenue dans le Paris Central Show. C'est le jour d'après, c'est le jour après l'élimination du Paris Saint-Germain. Même si ça fait 3 jours, on va parler de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui doit se passer dans les années à venir. Et on va pointer du doigt ce qui n'a pas marché comme d'habitude. C'est un éternel recommencement du côté du Paris Saint-Germain. Chaque période à cette année, à cette période de l'année, on refait les mêmes sujets. Mais on n'a pas le choix parce qu'ils font les mêmes choses. Alors aujourd'hui, on est avec Basto et Dryas. On va aborder pas mal de sujets. On va aborder le manque d'intensité. On va aborder le jeu trop stéréotypé, la politique sportive, quoi encore, les déclarations d'Mbappé sur le fait qu'on est au maximum. Est-ce que c'est la pire élimination? On va aussi dire, on va parler de Galtier. Galtier, son premier 8e de finale en Ligue des Champions. Est-ce que c'est un problème de prendre un coach qui n'avait jamais fait ça? On va parler de tout ça. Alors, on va commencer par l'intensité, les gars. Ce qu'on a vu face au Bayern, c'est ce qu'on a déjà vu face au Real, ce qu'on a vu déjà avant. C'est après 55 minutes, on n'a plus vu l'équipe. Même s'il y a le but qui peut-être les a découragés. Mais l'année dernière, face au Real, on fait un bon 150 minutes. Et après, les 30-40 dernières minutes, ça se passe très mal parce que physiquement, ça plonge. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de préparation physique du côté du Paris Saint-Germain? Ou est-ce que c'est le fait que les joueurs ne jouent pas les matchs de Ligue 1 à pleine intensité parce qu'ils choisissent leurs minutes? Souvent, ils attendent les 70e, 90e pour tuer le match. Et qu'après, au final, quand tu arrives en Ligue des Champions, tu n'es pas habitué. Donc, je vais commencer avec Basto.
Je pense que c'est un peu un mélange de tout. C'est plus complexe que purement physique. On sait que Sébastien Pochettino, le fils d'eux, était loué l'année dernière par les joueurs pour être un très bon préparateur physique. Cette année, les joueurs sont aussi satisfaits. Les observateurs disent que la prépa physique est assez bonne. Je pense surtout notamment à Munich. Alors oui, on n'est pas préparé en Ligue 1 à une telle adversité, c'est sûr, ça compte, mais on a surtout vu à Munich en première mi-temps, même si Paris fait, on va dire, jeu égal et fait bonne figure, on voit un Munich qui récupérait les seconds ballons, qui nous pressait haut, on avait du mal à relancer de notre défense. Quand ça passait, quand on passait leur premier rideau, on avait tout de suite des opportunités dans la profondeur avec Mbappé et Nuno, mais ils étaient déjà en train de nous user physiquement, et ça c'est tactique, et donc en seconde mi-temps on arrive, et physiquement... Eh ben, on a plus souffert qu'en première et on commence à reculer et à ne plus être dans la PAC. Donc je pense qu'il y a, c'est pas qu'une question de prépa physique et de mentalité, c'est aussi tactique du moins sur le match contre Munich et même globalement hein, sur les dernières années.
Adrias.
Bah moi je fais une énorme différence entre la presta qu'on a vue contre Munich et celle qu'on avait vue contre le Real. Contre le Real, tu domines de la tête et des épaules pendant 3 mi-temps et tu lâches mentalement. Il y a ce syndrome de la peur du Paris Saint-Germain qui revient, qui est cette espèce de truc qui nous pourchasse depuis la remontada, voire peut-être un petit peu avant, qui intervient. Alors que fondamentalement, moi, le truc qui m'a vraiment surpris sur ce match retour, c'est on avait vu un Munich qui était extrêmement friable dans son dos au match aller avec la rentrée de Mbappé qui leur a fait super mal. Et là, tu as eu un Munich qui a été capable de complètement nous museler. Oui, tu domines en soi parce qu'en termes de nombre d'occasions, tu en as plus, mais tu as un nombre d'occasions qui est famélique, tu as un nombre de situations qui est très faible et tu as une incapacité. Tu fais au mieux jeu égal en fait pendant les 60 premières minutes. Tu fais au mieux jeu égal et après tu as une absence de réaction alors que contre
on parle d'intensité hein.
Ouais, mais contre le Real, on était clairement au-dessus. C'est pas pour moi les deux sont pas comparables en fait.
En fait, il parlait du Real la dernière demi-heure où on s'écroule un peu physiquement.
Ouais, mais c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que la dernière demi-heure en fait, si tu veux, c'est juste que tu te retrouves avec ce bug mental qui est ce Paris Saint-Germain qui tout à coup se met à avoir peur. Là, c'est même pas de la peur que tu as ressenti, c'était juste de l'incapacité à créer des situations qui étaient concrètes. Les deux pour moi ne sont pas comparables.
Ok, juste une petite dédicace à Cool and the Band 007. Joyeux anniversaire, mon gars. 33 piges, ah, bah, on est de la même année, mon gars. Merci de nous suivre régulièrement sur Paris Central. On a Vincent qui est avec nous, comme d'habitude. Salut Vincent, plaisir de t'avoir tout le temps avec nous. Rekoba, la question, parce que tu arrives en cours, c'était est-ce que le Paris Saint-Germain a un problème de préparation physique? Parce qu'au bout de 55 minutes au Bayern, ça a piqué, comme souvent en Ligue des Champions. Ou est-ce que c'est l'habitude de la Ligue 1 et de ne pas jouer les matchs à 100% et après, tu n'as pas l'habitude dans les grands matchs?
Bah, salut à tous. Il y a un problème de tout en fait. Mais avant, il y avait un problème qui était physique parce qu'on le sait, voilà, ça, par rapport à d'autres clubs, il y a un manque d'intensité à l'entraînement, il y a un manque d'intensité pendant les matchs en Ligue 1. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui s'est rajouté cette année, il y a même deux choses qui sont rajoutées cette année. C'est un problème tactique avec aucune solution, comment dire, aucun rebond. On n'arrive pas à trouver des solutions, à s'ajuster, etc. Et ça, c'est criant sur les débuts de deuxième mi-temps où à chaque fois, l'équipe d'en face, qu'elle soit le Bayern ou qu'elle soit les Stacks, arrive toujours à revenir mieux en deuxième mi-temps. Alors, est-ce que c'est un problème tactique côté Galtier ou quoi? Ou un problème juste physique? Moi, j'y crois pas parce que tu t'es reposé pendant la mi-temps, donc ça ne peut pas être un problème physique. Donc pour moi, c'est simplement qu'on n'arrive pas à s'ajuster comme l'adversaire arrive bien à le faire et c'est pour ça qu'ils arrivent beaucoup mieux en deuxième mi-temps que nous. Donc je trouve que déjà cette année, il y a vraiment un problème tactique et physique, bah, comme d'habitude, bah, on est trop limité. Pour moi, il n'y a pas assez d'intensité aux entraînements. On prend la Ligue 1 beaucoup trop facilement, à jouer comme des sénateurs à chaque fois, à jouer 15-30 minutes. Cette saison, je trouve que des matchs où on a vraiment joué plus d'une mi-temps, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc forcément, ben, quand tu arrives face au Bayern, c'est trop compliqué. Et on l'a déjà dit de nombreuses fois dans des débriefs qu'à chaque fois, la performance, il n'y a pas assez qui est fait. Et au final, ben, quand tu arrives contre un Bayern Munich et qu'il faut que tu fasses un match entier à haute intensité, ben, tu arrives à tenir qu'une demi-heure.
Mais si on prend les matchs juste avant cette confrontation, parce que le Bayern a joué Stuttgart et nous on a joué Nantes. Quand tu regardes les deux matchs et tu regardes l'intensité de Bayern Stuttgart et tu regardes l'intensité de PSG Nantes qu'on menait 2-0 après 20 minutes, je pense qu'il y a deux problèmes de préparation à ce niveau-là. Il y a les joueurs qui choisissent entre guillemets, des minutes dans le match. Et il y a aussi le problème qu'en France, il n'y a pas d'intensité. Je suis désolé, j'ai regardé un PSG Nantes. Vous ne pouvez pas me dire que les joueurs, toute l'année, ils ne font pas le travail sur 90 minutes dans un match. Et bizarrement, magique, face au Real, face au Bayern, ils peuvent tenir 90 minutes. Ça n'existe pas, les gars. Le Bayern, l'intensité qu'ils ont mis en Ligue des Champions, c'est l'intensité qu'ils mettent tous les week-ends en championnat. Je suis désolé.
3 jours avant, tu joues Marseille. Tu vois, le
Hein?
truc, 3 jours avant, tu joues Marseille. Trois jours
Trois jours
avant,
avant
tu joues
Nantes.
Nantes. Trois
Ah,
jours avant
ok.
de jouer Nantes, tu joues Marseille. Et Marseille, je suis désolé, tu prends l'intensité que met Marseille et tu la compares à celle de Stuttgart, bah, c'est Marseille qui l'emporte pour le coup, je pense, en termes d'intensité. Peut-être pas en termes de jeu, mais en termes d'intensité, ces trucs. Il y a un moment où, si tu veux, tu peux te réfugier derrière, oui, c'est la Ligue 1 qui n'est pas au niveau, c'est etc., etc., etc. Il y a un moment où il faut regarder dans les faits. Tu as une équipe, comme le disait Recoba, sauf que moi, je suis un peu plus sévère que Recoba, parce que Recoba le situe au début de la deuxième mi-temps, une incapacité de réaction. Moi, c'est une incapacité d'action. Tu fais illusion à parce que tu as une supériorité technique au niveau des adversaires en première mi-temps quand tu te retrouves effectivement pas face au Bayern ou même face à Marseille, parce que face à Marseille, on ne faisait pas, on a vraiment eu un jeu de contre, qui fait que tu fais illusion, mais tu as un vrai déficit de circuit de passe, d'animation, de manière de jouer. T'as des joueurs qui sont complètement perdus. T'as des séquences où, par exemple, je sais pas, moi, hier, t'as Donnarumma, à un moment, qui veut, à la 20e, relancer rapidement après une attaque nantaise, bah, t'as les 10 joueurs qui bougent pas. Et c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils savent pas quoi faire, ils ont pas de... C'est une équipe qui, en termes de jeu, est d'une pauvreté abyssale. Alors, bien sûr, on peut charger la Ligue 1 et on peut se réfugier derrière la Ligue 1, mais il y a un moment, il faut aussi regarder les trucs en face. Quand est-ce qu'on a eu un match référence, ne serait-ce qu'en Ligue 1 cette saison? Oui, tu as le match contre Marseille. Pourquoi? Parce que, eh ben, tu peux jouer le contre et tu arrives à trouver une structure qui te permet d'être cohérent dans ce truc-là. Mais en soi, ton argument tiendrait si, par exemple, en Ligue 1, on avait des vrais matchs références qui s'étaient répétés semaine après semaine. On n'en a pas.
Merci.
On a surperformé en début de saison avec trois scores fleuves qui racontaient pas forcément la réalité du match. Et sinon, tu as le match de Marseille. Et sinon, t'as que dalle.
Toute
Donc,
façon,
argument
quand tu parles d'intensité, c'est que tu vois une équipe collective au pressing qui sait faire ce qu'ils font et parce que le bloc est là. Donc le bloc est là, soit la récup du ballon, soit le bloc est là au moment de presser. Mais à Paris, ce n'est pas une question de joueurs qui ne font pas les efforts, etc. Mais si tu en as un qui presse et que tu en as cinq derrière qui ne sont pas coordonnés, forcément tu vas avoir l'impression que tu as deux joueurs qui courent dans leur coin et que les autres marchent, alors que c'est pas vraiment ça, c'est juste que les joueurs ne courent pas ensemble, et ça c'est purement tactique.
Ouais, et puis par rapport aux commentaires qu'il y a juste en dessous.
Merci Eve.
Merci Eve.
Ouais, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y avait rouge.
Ouais, ça pouvait, il peut y avoir débat, mais en vrai, ouais.
Non, il n'y a pas de
par rapport aux commentaires qu'il y a eu, en fait, c'est exactement ça, parce que là, on parle que comme si la Ligue 1 pouvait être un problème, mais la Ligue 1, avant, on le disait, elle était moins forte qu'aujourd'hui, et pour autant, on dominait la Ligue 1, on mettait l'intensité qu'il fallait. Et en Ligue des Champions, on n'avait pas de soucis physiques. On n'avait pas de tournure comme on avait.
Ridicule, en tout cas.
Comment ?
En tout cas, il y en a qui parlent de l'époque Laurent Blanc, mais Laurent Blanc, c'est le PSG qui marque le moins de buts, c'est le PSG qui prend le moins de points globalement, c'est un PSG qui ne fait pas finalement. Il y a une légende de ça mettait que des 5-0 alors que l'équipe prend moins de points et marque moins de buts que tous les coachs précédents. C'est juste qu'on avait un deuxième qui finissait avec 68 points, quand maintenant on a un deuxième qui a plus de 75 points. On avait une concurrence qui était ridicule à l'époque. C'est comme si Nadal jouait un challenger, la Ligue 1 de Laurent Blanc.
Mais en Ligue, c'est surtout en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, tu n'avais pas de trou d'air. Je veux dire, ils faisaient un match complet et plusieurs fois, on s'est fait sortir par la règle du but à l'extérieur. Il n'y a pas eu de grands événements où on prend une remontada, où il se passe quelque chose de bizarre. Ouais, donc l'intensité, on va dire, ils la mettaient. Ils étaient capables de la mettre sur un match entier, alors que la Ligue 1 était censée être...
Il y a un peu le Chelsea sous blanc. Basto, arrête d'interrompre. Le match pour Barça sans exister, s'il y a eu des matchs aussi.
Basto, arrête d'interrompre. Il y a un commentaire très intéressant de la Sana qui nous dit que c'est à nous de mettre l'intensité dans chaque match et mettre des gros scores. On arrête de jouer quand on met deux buts. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu assez régulièrement et qu'on se fait rattraper, notamment encore quand Nantes, on menait 2-0, on y sont revenus à 2-2. Contre Lille, je crois, on mène, ils reviennent. J'ai l'impression, les mecs, ils mettent le but et après, ils gèrent le match. Et ça, tu peux pas te permettre de jouer comme ça toute l'année. Il n'y a pas d'interrupteur.
On l'a vu tout au long de la saison, ça, pour le coup, peu importe l'adversaire.
Mais ça, en fait, c'est structurellement, c'est la manière de jouer de l'équipe. C'est-à-dire que tu as des talents de ouf qui fait que tu arrives à créer des différences individuelles, mais comme tu n'as aucune structure collective, sur quoi tu t'appuies, en fait ? Sur quoi tu t'appuies ? Donc effectivement, tu arrives à marquer des buts, mais les buts que tu marques, c'est pas parce que tu es ultra dominant dans le jeu en termes de situation créée, en termes de répétabilité de ces situations, et c'est juste c'est pas de la chance, parce que tu as le talent, parce que tu as mis le prix, mais voilà, c'est en effet une fois que tu as le talent qui est là, tu as les deux buts, ben t'as plus rien, mais au fond, est-ce que tu avais vraiment quelque chose avant de mettre ces deux buts? Je pense pas, non.
Ouais, puis d'habitude, tu vois, quand on a ces trous d'air là, ça dure 10-15 minutes en deuxième mi-temps contre Angers, contre Troyes, voilà, contre des adversaires qui sont plus faibles ou à notre portée. Donc, tu vois, ça dure 10-15 minutes et puis après, le talent individuel de chacun ou parce que l'équipe d'en face baisse de régime fait que on revient dans le match et soit on marque, soit on s'en sort. Mais là, quand tu tombes contre un Bayern qui est beaucoup plus fort que toi, quand tu as ce trou d'air pendant 10-15 minutes, derrière, en fait, c'est ça, c'est que tu dois t'en remettre à tes fondamentaux, à ce que tu maîtrises et répéter ce que tu sais faire. Sauf que comme tu ne sais rien faire et qu'en plus de ça, le Bayern est largement supérieur à toi, en fait, tu coules toute la deuxième mi-temps. Parce qu'au final, le trou d'air, il n'a pas été pendant 10-15 minutes, il a duré toute la deuxième mi-temps où on n'a pas du tout existé.
La première pour moi, mais bon. On t'entend pas, Nick, t'as coupé ton micro.
Ah ouais, t'as coupé ton micro.
On va aborder le deuxième sujet du live. On a vu que le Bayern a pu facilement déstabiliser toute la stratégie du Paris Saint-Germain en mettant Stanišić ou Upamecano en tenaille sur Mbappé. Et juste Goretzka qui met des gros coups de tampon à Messi. Et trois joueurs, ils ont tué le Paris Saint-Germain en... Même pas, t'as l'impression que les deux joueurs de devant, tu les as même pas vus. Müller et Choupo-Moting, je les ai pas vus jouer ce match-là. Donc en fait, il y a eu trois joueurs qui ont fait la différence. Goretzka, Upamecano et Stanišić, il n'y avait plus de Paris Saint-Germain derrière ça. Donc en fait, moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi Galtier n'a pas travaillé des solutions alternatives? Parce qu'on savait tous que la relation Messi-Mbappé, même le coach Nagelsmann, il a dit en conférence de presse qu'il allait travailler là-dessus. Pourquoi sur les côtés, on n'a rien vu? Est-ce que le Paris Saint-Germain n'est pas trop prévisible? Et est-ce qu'on a un coach, entre guillemets, qui ne prépare pas une surprise à côté vu qu'on est prévisible pour surprendre l'adversaire? Vas-y, Rekoba, comme ça on fait l'inverse.
Bah oui, en fait, tu l'as dit, moi je l'ai dit de nombreuses fois, je ne suis pas partisan de changer d'entraîneur chaque saison, mais j'ai un problème avec Galtier, c'est que je le trouve beaucoup trop limité tactiquement. On le voit, cette année, il n'y a pas de jeu, et à chaque fois, on n'arrive jamais à trouver des solutions, à s'ajuster. Alors oui, c'est vrai que des fois, le banc, même souvent, le banc est léger, mais je trouve qu'il y a vraiment une réelle incapacité de Galtier à trouver des solutions, à s'adapter à son adversaire, à réussir à répondre aux défis tactiques que lui impose un Tudor ou un Nagelsmann, en tout cas dans les grands matchs qu'on a pu jouer, même Fonseca contre Lille. Donc ouais, je trouve que ça, c'est un gros problème récurrent cette saison. Et au final, bah, ça s'est vu encore une fois. Nagelsmann savait très bien qu'au PSG, il y a deux points forts. C'est la relation Nuno Mendes-Mbappé et la relation Mbappé-Messi. Donc à partir du moment où tu bloques seulement Mbappé, bah, tu sais que derrière, ça va être très compliqué, puisque tu bloques ces deux circuits-là en prenant seulement ce joueur-là. Donc il y a eu un vrai taf sur Mbappé qu'on fait remarquablement Upamecano et Stanisic. Goretzka, lui, s'est chargé de Messi. Et au final, bah, derrière, bah, il ne se passe rien. Et même en deuxième mi-temps, tu n'arrives pas à t'ajuster. Tu ne sais pas comment. Mais le truc, c'est que Galtier, il le savait, ça. Tu vois, c'est comme contre Marseille, l'intensité que Marseille allait mettre, le pressing, etc. On savait tout ça. Et pour autant, bah, il n'a jamais su s'ajuster. Et contre le Bayern, c'est la même chose. Tu savais très bien que Nagelsmann, il allait couper cette relation technique entre Mbappé et Messi. Tu savais que, mais sauf que, bah, comme d'hab, pas de réaction, pas de solution. Et il est sans idée. C'est un entraîneur qui est sans idée. Et ça s'est vu une fois de plus, tout simplement.
Yes. Bah, c'est à la fois ça, pour moi je trouve des circonstances comme on dit des excuses quoi, mais des situations en fait qu'il a créées lui-même. C'est faut vraiment s'interroger sur l'utilisation de Soler, la manière avec laquelle Vitinha a été utilisé, ce qui fait qu'à l'arrivée il se retrouve avec des joueurs qui savent presque plus jouer dans leur rôle ou qui n'ont pas les réflexes, qui se retrouvent dans des rôles qui sont différents, qui fait qu'il n'a pas d'autre solution concrètement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu prends cette équipe, si tu as coupé Messi et Neymar, sur qui tu peux compter? En fait, tu réfléchis, tu peux compter sur Nuno. Et offensivement, bah, ça se limite à ça. Ça se limite à ça. Après, tu pourrais réfléchir, pourquoi est-ce que Vitinha, bah, par exemple, tu l'as tellement fait jouer 10 que le mec, tu lui as mis la tête à l'envers, plutôt que de pouvoir justement le faire travailler plus offensivement en 8. Pourquoi est-ce que t'as pas su utiliser Soler? Faut encore rappeler que Soler, c'est la première fois qu'il joue à son poste. C'était contre Nantes, c'est la première fois de la saison que le mec joue à son poste, etc. Ce qui fait que c'est la problématique de Galtier, c'est à la fois, comme tu le dis, Rico, c'est des animations avec ballon et sans ballon de très grande pauvreté, mais c'est aussi une utilisation de l'effectif qui a été profondément défaillante, avec des individualités qui ont régressé sur l'ensemble de la saison, et aucune individualité. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans des situations, c'est un peu le mec qui se dit, ah ben j'ai pas d'autre solution, mais sauf que c'est un peu lui qui a créé le fait qu'il n'ait pas d'autre solution, quoi. C'est bon, la galette, quoi.
Monsieur Basto.
Ouais, après, ça reste unique en face, comme on dit, et souvent, les équipes qui vont gagner avec des champions, ça fait des années qu'on le répète aussi, pour donner des circonstances atténuantes à Galtier, c'est que ils ont un buteur, ça on l'a, ils ont un leader au milieu, on l'a pas, ils ont un leader en défense, on l'a pas, quand tu vois que Danilo, même si Ramos sur ces deux matchs l'a été, mais globalement, c'est Danilo ton meilleur décès cette saison, c'est qu'il y a un problème. Et ils ont un gardien décisif, et nous, malheureusement, Donnarumma, même si je l'adore, ça fait deux huitièmes de suite où il est fautif sur un des deux matchs. Maintenant, passé ça, on ne peut pas ne pas exister trois mi-temps sur quatre de la sorte. Ce n'est pas une question de planter Mbappé ou de Galtier qui aurait dû faire ça. Je ne sais pas si Galtier n'a pas d'idée ou s'il en a, mais qu'il est complètement perdu. Il a essayé, hein, il a essayé 4, 5 systèmes, il a essayé des joueurs à tel ou tel poste. Donc il a en soi des idées, c'est juste qu'elles ne sont pas bonnes, ou alors c'est juste qu'il n'a pas les bonnes idées, qu'il est perdu. Il est perdu, ça c'est sûr. Mais oui, encore une fois, c'est pas normal de subir trois mi-temps de la sorte. Nagelsmann n'a juste eu, il l'a dit en plus, à la fin du match, il a dit, vous inquiétez pas, même Müller la veille, il a dit, on a un plan anti-Mbappé, vous le verrez demain, ça se passera bien. Ils affichent leur arrogance, des fois ça passe pas, mais contre Galtier, c'est passé facilement. Il n'y avait plus personne à aller, un peu Nuno libéré après la libération de Messi Mbappé, mais c'est tout.
Basto, très rapidement, tu peux avoir des idées, mais après, il faut quand même que tes idées, elles s'inscrivent dans une cohérence d'ensemble. Galtier, effectivement, oui, il a des idées. En effet, effectivement, il a un cerveau et tout. Et en aucun cas, je parle de l'homme, je ne me permets pas de juger de l'homme, mais faut-il que tout ça s'inscrive dans un ensemble avec un plan, et le plan, en termes de jeu, on l'a pas vu de la saison. Et je voulais revenir sur ce Bayern que, limite, dans les propos, on a presque l'impression que c'est devenu un ogre. Ce Bayern est un des Bayern les plus faibles des dernières années. Alors après, en effet, en Ligue des Champions et chez eux, ça reste une équipe qui est très dure à prendre. Mais c'est pas non plus, cette année, ils sont pas devenus le Cador. Si jamais ils vont gagner la Ligue des Champions, ils vont nous faire la même chose que le Real Madrid l'année dernière. Parce que ce Bayern, il faut le rappeler, à l'entrée de Mbappé au match aller, ils se mettent à flipper, et sérieusement. Et il y a des équipes qui vont avoir de très sérieux arguments contre eux, et je serais très surpris qu'ils aillent très loin dans cette campagne.
Oh. Je ne suis pas d'accord avec toi, Dreyas. J'ai l'impression que le Bayern, tout le monde dit qu'il est moins bien que les années d'avant, mais j'ai l'impression que c'est juste un Bayern avec Nagelsmann qui est beaucoup plus pragmatique. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se lancer à l'attaque, essayer de te punir et te mettre 7-0. C'est une équipe qui va jouer un peu plus au football type Real Madrid, où genre ils vont t'attendre là comme ils nous ont attendu, et après ils vont te contrer, après ils vont gérer le match. C'est pas le Bayern rouleau compresseur qu'on a l'habitude de voir chaque année. Et bizarrement, ce Bayern rouleau compresseur, il gagnait jamais la Ligue des Champions, à part 2020. Mais là, depuis je sais pas combien d'années, ça fait 10 ans, ils en ont pris qu'une. Et là, Nagelsmann, il va passer sur une solidité défensive que le Bayern n'avait pas avant, parce que je rappelle que le Bayern a joué l'Inter de Milan, Barcelone et le PSG, et ils ont pris 0 but. Donc là, on passe sur une solidité défensive qu'on n'a jamais vue auparavant, et moi, je compterai sur le Bayern pour le reste de la compétition. Vas-y, Basto.
Ouais, en fait, l'année dernière, Nagelsmann, à juste titre, s'est fait critiquer parce qu'il mettait des compos avec parfois 8 attaquants. Je me souviens des milieux avec Musiala, Müller en 8, plus seulement 3 décès, mais dans les décès, en plus, tu avais un milieu, c'était Kimmich. Ils se prennent 2-0 par Salzbourg en 8e comme ça. Bon, ils gagnent le match retour largement. Et puis, tu as aussi, ils ressortent une compo ultra-offensive contre Villarreal, ils se font sortir. Donc, Nagelsmann s'est fait critiquer là-dessus d'être trop... d'être trop offensif et d'oublier de défendre. Cette année, effectivement, comme tu le dis, Munich, dans les gros matchs, c'est quasiment pas de but encaissé, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. C'est vrai que 0 but pris contre l'Inter, 0 but pris contre Barça, 0 but pris contre PSG, je pense que ça parle de même. Ils ont un Upamecano qui est extraordinaire cette saison. Ils ont un milieu Kimmich Goretzka qui, de toute façon, avec Musiala en plus plus haut, qui est un des meilleurs d'Europe et qui... Ça suffit, une solidité défensive, un grand milieu. Alors, ils n'ont pas un grand buteur, mais Choupeau, il n'a plus qu'à finir les actions. On a vu son but contre Paris, c'est souvent des buts comme ça qu'il met. Hein. Tu mets le Haro à l'époque PSG, il t'en met aussi 25-30 à ce Munich, mais ils n'ont pas besoin de ça parce que derrière, les transitions sont bien faites. Mais ils ont avant tout une solidité défensive qu'ils n'avaient jamais eue.
On verra.
Donc, Munich allait au moins en demi, ça c'est sûr, et je pense finalement.
On verra.
Ok, on va passer au troisième sujet. Moi, il y a un truc, je pense qu'on a tous vu lors de ce match, mais si on prend le salaire de Gnabry, le salaire de Coman et le salaire de Sané, je pense que les trois, c'est égal au salaire de Messi, peut-être à quelques millions d'euros près, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que, entre guillemets, on va pas dans le mur avec cette politique sportive, avec des joueurs qu'on paye... Je sais pas, je crois qu'en net, il a 45-50 millions. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir trois Coman qu'un Messi? C'est la question que je me pose. Parce que quand Messi ne fait pas un bon match, bah du coup, tu ne peux pas le sortir. C'est pareil en défense. Quand tu fais rentrer deux jeunes de 17 ans dans un huitième de finale de Ligue des Champions et tu vois qui le Bayern fait rentrer, les mecs, ils font rentrer Cancelo. S'il te plaît, Cancelo. Vous êtes sérieux, les gars? Est-ce que notre politique sportive... Enfin, ça, je pense qu'on le sait tous, mais on marche sur la tête. Parce que le Paris Saint-Germain était encore dans le match jusqu'à ce qu'on perde nos deux blessés. Il y avait encore un zéro, tout était encore jouable. Après, on a fait les repassements qu'on a fait et on voit que El Shaddai, même si Verratti est beaucoup plus responsable pour moi, il fait une passe qu'il ne doit pas faire et que probablement un cadre n'aurait pas fait. Donc là, tu payes aussi ton manque de profondeur de banc. Donc vas-y Basto, je te laisse réagir là-dessus. Ouais.
Tu manques ton profondeur de banc ou ton profondeur de cervelle d'entraîneur. Hein. Qu'est-ce que tu fais rentrer El Shaddai et t'insistes dans une défense à 5, alors que tu l'avais déjà mis dans un contexte comme ça à Monaco compliqué? Pourquoi tu changes pas de système? T'es mené, mais mets un solaire, change de système, fais quelque chose. Pareil quand il sort Nuno pour Bernat en fin de match, il est en mode allez, ça y est, je vais souffler Nuno pour le championnat, parce que il monte, le coach monte lui-même à son équipe qui n'y croit pas et qu'il n'y a jamais cru quasiment. El Shaddai, c'est quoi? Oui, on continue une défense à 5 déjà de base, avec Marquinhos qui est à 50%, puis Mukele qui rentre qui est aussi à 50%, donc on avait deux joueurs aptes en gros pour une défense à 3, plus le petit El Shaddai. Gatier qui nous avait dit cet hiver qu'il ne voulait pas recruter de défenseur parce qu'il voulait jouer en 4-4-2 à plat, puis finalement il l'abandonne. Ah, on gagne à Marseille en défense à 5, donc il s'est dit c'est bon, on va insister là-dessus, puisque c'est ma seule idée, c'est mon petit réconfort, je ne sais pas faire autre chose. Mais c'est ridicule, et à l'arrivée tu tapes sur Al-Shaddai. Alors oui, notre banc n'est pas satisfaisant, mais comme l'a évoqué un peu Dryas tout à l'heure, c'est si toutes nos recrues offensives, ce soit Solaire et d'autres, ne sont pas une solution actuelle, c'est que le coach les a gérées n'importe comment. On a des cadres qui n'ont jamais été aussi faibles que sous Galtier, on a des recrues qui sont toutes mal intégrées, plus ou moins, peut-être sauf Mukiele, mais je ne sais même pas si c'est une intégration, il joue à son poste, il joue, et des jeunes qui jouent plus que par le passé, mais qui sont mis dans des contextes en mode fusible.
Adresse. Ben, par rapport pour recentrer là, sur la question que tu posais, j'ai envie de te demander combien il était payé Ganagay, combien il était payé Draxler, combien il était payé Herrera. C'est-à-dire qu'en effet, tu peux prendre la part de l'équation en te demandant mais comment ça se fait que tu payes un mec 50 millions alors que tu pourras en, 50 millions par an alors que tu pourrais en payer 3 à 15 millions par an, voire même moins, qui t'apporterait satisfaction. Mais tu peux aussi te demander. On était en train de surpayer un truc de ouf, toute la grille salariale, à cause de ça. Et on s'est construit un vestiaire qui est tout simplement ingérable dans une espèce de fuite en avant qui petit à petit est en train de nous remordre aux fesses. C'est-à-dire qu'on, à chaque fois, on n'a pas d'argent. On est en train d'essayer de consolider certains contrats parce qu'ils vont nous assurer du sponsoring. Bonjour Lionel Messi, bonjour Sergio Ramos. Et on n'a pas de plan, on n'a pas de visibilité à ce niveau-là. Il n'y a malheureusement aucune logique sportive qui a prévalu la constitution de l'effectif, et ce, fondamentalement, depuis le départ d'Ibra, où tout à coup, on était en mode avoir une star que tu surpayais, et ensuite de ça, avoir des bouches-trous, sauf que le problème des bouches-trous, quand ils arrivaient, eh ben, les bouches-trous, ben, ils voyaient que la star, elle était payée 50 millions, ou je ne sais même pas combien d'euros, et de boursouf, et tout ce qui va avec, eh ben, les bouches-trous, ils essayaient de demander une part du gâteau, ce qui était légitime, et tu te retrouves dans une situation où, fondamentalement, tu as construit un vestiaire pour avoir des stars. À aucun moment la logique qui a prévalu de la construction de ta vestiaire a été une logique sportive.
C'est gentil pour Sylvain Mota, le mot bouche.
À aucun moment c'était une logique sportive, et tu te retrouves dans une situation, oui, ça a été une fuite avant, et puis maintenant tu es dans la merde. Et puis oui, tu peux faire ce constat-là, tu peux faire le constat en effet que plutôt que payer un joueur 50 millions, bah, on payait 3-15 millions, ça te coûte 5 millions de moins et ça peut être plus utile. Mais tu peux aussi faire le constat que tu payais certains joueurs 8 millions par an et c'était n'importe quoi.
Juste pour répondre à Nouri, même si on s'était qualifié avec Neymar, j'aurais tenu le même discours, puisque en fait, tu vois bien qu'on est quasiment le seul club qui paye plus d'un joueur, plus de 20 millions de salaire. Ça n'existe nulle part ailleurs. Même tu prends Liverpool, ils ont dû dégager Mané pour pouvoir prolonger ça là à, je crois, 24 millions. Il y a très peu de clubs où il y a plusieurs joueurs qui dépassent 20 millions. Ça n'existe pas, ça. Vas-y, Rekoba.
Ouais, puis le PSG est la plus grosse masse salariale d'Europe et loin devant, très très loin devant. Et
plutôt quand on regarde.
Hein,
on est plutôt cinquième, c'est parce que. Merci le fair play financier, mais ils ne prennent pas en compte la fiscalité française.
Ah, j'ai vu qu'on était premier avec 700 millions annuels.
Troisième. Non, on est premier parce que
on est troisième, il faut qu'on enlève les trucs.
Ah, okay. Bon, ça revient au même, mais quand tu regardes de toute façon ceux qui nous entourent, ils ont deux équipes. Et on l'a encore vu avec le Bayern, les rentrants qui font rentrer, c'est top niveau, ils peuvent être titulaires, clairement, c'est des joueurs de classe mondiale. Alors que nous, on a aucun banc. Donc comment tu peux expliquer qu'on fasse partie du top en termes de masse salariale, mais que tu n'as même pas un remplaçant de qualité qui est à la hauteur des titulaires? Donc évidemment qu'on marche sur la tête, évidemment que ça fait des années que c'est comme ça, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. La politique, elle est clairement marketing plus que sportif. Alors c'est très bien parce que au terme marketing, l'influence du PSG dans le monde, ce que tu veux, le rayonnement, c'est exceptionnel. Par contre, sur la pelouse, c'est tout autre chose. Et surtout, c'est de pire en pire parce que forcément, bah, en fait, tu payes les erreurs. À chaque fois, tu payes tes erreurs du passé et tout en fait s'enchaîne, tout s'ajoute. Et au final, on en est là aujourd'hui. On n'a jamais eu une pire équipe, je pense. Là, on n'a vraiment plus de banc, on a des cadres défaillants, on s'est appuyé sur une ossature défaillante année après année. T'as recruté combien, entre 10 et 15 joueurs au milieu de terrain? T'as jamais, parmi ces joueurs-là, un mec capable de remplacer Matuidi ou Mota. On en est, parce que là, on se dit, par rapport à Messi, ouais, on enlève Messi, on aurait peut-être Coman, Gnabry et Sané. Mais si on regarde de plus près, Rien qu'un deuxième Danilo, déjà, ça nous serait utile. Tu vois, on n'a même pas besoin d'avoir des commandes. Juste un deuxième Danilo déjà dans notre équipe, avoir un Danilo en défense centrale et un Danilo au milieu de terrain, déjà, ça nous mettrait mieux, on serait déjà mieux.
Ça rendrait Pasto heureux.
Mais malheureusement...
Là, Danilo, si c'est un mec qui a la mentalité pour s'imposer comme un Nuno, ça n'a rien à voir, pas dans le niveau de jeu.
Non, mais c'est ça exactement. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de budget, on ne peut plus envoyer des sacoches. Parce qu'on aurait pu envoyer une sacoche sur un Casemiro, par exemple, qui nous aurait fait du bien. Mais du coup, on est obligé de lâcher des 20 millions, 30 millions, 40 millions sur des joueurs comme Vitinha, Ruiz ou Soler. Il y a des joueurs parmi ceux-là qui peuvent s'imposer au PSG. La preuve, Danilo ne nous a pas coûté un bras et il sait s'imposer au PSG. Malheureusement, dans ces joueurs-là, tu en as énormément qui n'ont soit pas le niveau du PSG, soit pas la mentalité ou le caractère pour supporter la pression d'un club comme le PSG et réussir à t'y imposer. Surtout dans un PSG comme ça, parce que, encore une fois, je suis certain que ces joueurs-là, tu les mets dans un club plus structuré comme Manchester City ou le Bayern, ils fonctionneraient très bien, même s'ils seraient sûrement sur le banc. En sortie de banc, ils seraient très bons et ils s'acclimateraient bien au club. Seulement, au PSG, c'est un contexte tellement particulier que ces joueurs-là ne peuvent pas s'adapter au PSG, ne peuvent pas réussir au PSG, tout simplement.
En fait, tu as un servicieux, comme tu l'as évoqué, Rico, tu as un servicieux qui fait que Paris n'a pas d'argent. Donc, mais tout le monde connaît nos priorités. Donc, les joueurs qu'on va prendre, ça ne peut pas être des stars, mais des joueurs de second couteau que les clubs vont faire payer plus cher, ou des joueurs en fin de contrat qui vont forcément demander un gros salaire puisqu'ils savent que Paris est dans l'urgence. Et donc, dans ces cas-là, tu as deux choix. C'est soit tu n'as pas le droit de te tromper quand tu fais des paris et quand tu mets 40 sur Equitiqué, bah tu gâches 40 millions de plus quand tu peux faire pour le même prix à Gonzalo Ramos plus Enzo Fernandez cet été. Donc, il faut faire zéro erreur dans ces cas-là. Soit tu dois savoir vendre tes joueurs comme Verratti, comme Marquinhos, comme Kimpembe, qui a une valeur marchande entre 60 et 80 millions d'euros, et tu ne le fais pas non plus, donc forcément tu t'enfonces d'année après année.
Ouais, puis il y a un souci de passe droit aussi, parce que tu vois, j'ai vu un commentaire passer, Ekitike 35 millions, et Sadio Mané a coûté 35 millions au Bayern. Mais c'est vrai, simplement le PSG ne peut pas recruter Sadio Mané, et même Sadio Mané ne veut pas venir au PSG, tout simplement parce que Sadio Mané aurait été sur le banc, tout comme a été Di Maria quand il y a eu la MNM l'année dernière, c'était sans arrêt Di Maria sur le banc, ou Di Maria qui sortait en cours de match. Pourtant, ce n'était pas à lui de sortir ou d'aller sur le banc. Mais c'est toujours comme ça. Et donc, avec tous les passe-droits qu'il y a, tu ne peux pas avoir un Sadio Mané au PSG. Parce que c'est quoi? Tu vas le mettre sur le banc. Lui-même, déjà, ne voudra pas venir. Et même s'il va venir, il va être sur le banc. Donc, il y a des joueurs comme ça. Tu ne peux pas avoir un effectif cohérent parce que tu sais très bien qu'il y a des passe-droits. Tu as tes trois joueurs, ils vont tout le temps jouer. Ils sortiront jamais. Et tu es obligé, du coup, d'avoir des seconds couteaux derrière. Tu ne peux pas avoir un banc de qualité avec tout ça.
Rapidement quand même, quand on prend Vitinha, il faut se souvenir qu'après trois journées, on était en mode ça y est, on a enfin recruté un milieu qui est cohérent par rapport à nos besoins. Ensuite de ça, tu as un joueur qui a dû digérer les attentes qui étaient placées en lui, et ensuite de ça, il a été placé n'importe comment. Alors je sais qu'on revient un petit peu sur un sujet de départ, mais cette année, tu avais quand même. Même s'il y a eu certains éléments où on se dit mais what the fuck, etc., etc. Renato Sanchez, beaucoup le voulait, mais bon, on a vu avec les blessures, on ne va pas revenir sur, etc. L'étiquette, il y avait beaucoup de questions, elle continue d'avoir lieu, mais tu avais quand même, que ce soit Soler qui a été utilisé n'importe comment, que ce soit Fabian Ruiz qui a montré sur quelques matchs qu'il pouvait être utile, que ce soit Vitinha, où il faut se poser la question de. Oui, il y a l'encadrement du Paris Saint-Germain qui en soi est nocive avec cette proximité qu'il y a entre les stars et la direction et la mainmise que ça a sur le sportif, mais il y a eu aussi cette année une faillite sportive qui se traduit dans l'intégration des dites recrues. Je rappelle, Soler, premier match à son poste, c'était contre Nantes. Je ne sais pas quelle journée on est, c'est peut-être la 28e, 29e, il faut attendre 29 jours.
Il n'a pas joué contre Nantes.
Hein? Non, contre le match qu'on a joué contre Brest. Ah,
il en a fait quelques-uns en début de saison contre un C3 où il n'est pas satisfaisant quand Neymar est absent en 10.
Ouais, bon, peut-être. Mais en tout cas, voilà, ça faisait un moment qu'on le réclamait. T'as Vitinha qui a été placé trop haut. T'as Ruiz. Alors Ruiz, j'ai jamais compris pourquoi tout à coup il était en forme et tout à coup il était en méforme, etc. Mais il y a, d'une manière générale, il y a une faillite au-delà du fait que avoir un sportif cohérent, c'est difficile au Paris Saint-Germain, et on l'a très bien vu avec Thomas Tuchel et avec Pochettino. Là, en plus de ça, on a une vraie faillite cette saison, à la fois dans les animations de jeu, mais aussi dans l'utilisation de l'effectif, qui nous a plombé vraiment, je trouve.
Bon, on a 4 minutes de retard sur le plan, donc on va accélérer. On va revenir sur la déclaration de Kylian Mbappé, après le match, qui disait que... Ce que j'ai dit en première partie de ma première déclaration en Ligue des Champions en début de saison et qu'on allait faire avec nos forces, entre guillemets, et que là, il dit qu'on est à notre maximum, que le Bayern a une équipe qui est taillée pour gagner la Ligue des Champions, mais que nous, on est à notre maximum. Ça, couplé à la déclaration qu'il a fait la semaine d'avant, où il a dit « si moi, je voulais gagner la Ligue des Champions, bah, je ne serais plus là », je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des messages clairs qui sont envoyés de la part de Kylian Mbappé. Est-ce que on voit pas le Paris Saint-Germain trop beau? Parce que j'ai l'impression que tout le monde nous voit comme un prétendant pour gagner la Ligue des Champions. Parce qu'on a Messi, parce qu'on a Neymar, parce qu'on a Mbappé. Mais tous les gens qui nous voient comme des gagnants potentiels, mais c'est des gens qui connaissent le foot. Je comprends pas comment ils comprennent pas que tu peux pas avoir un moteur Ferrari avec des roues. Si t'as pas de roues, ça va nulle part, en fait. Je sais pas. Et pourquoi le PSG a autant de pression? Pourquoi c'est une catastrophe si le PSG se fait éliminer en huitième de finale contre le Bayern de Munich? Alors que quand tu regardes les compositions avant le match, quand tu regardes le coach avant le match, ce n'est pas une surprise, les gars. Je suis désolé, je veux bien être supporter autant que vous voulez, mais il n'y a pas photo normalement. On va pas à chaque fois passer en Ligue des Champions parce que Kylian Mbappé, parce que Neymar fait un exploit. C'est pas ça le football. C'est pas ça. La dernière fois, on les a éliminés sur des exploits. Faut arrêter. Vas-y, Dreyesh.
J'ai une réponse super simple pour toi. Et tu l'as dit tout à l'heure. En termes de budget, on est le premier club européen. Et une fois qu'on applique le principe de décote, on est le troisième club européen. À partir de là, il est juste logique qu'on nous voit parmi le top 8 et qu'on nous associe au top 8, voire même au top 4 régulièrement. Le fait que, et encore une fois, hein, que si on applique la décote, on n'est pas cinquième, on est troisième. Le fait qu'on est troisième et qu'on soit régulièrement que dans le top 8, voire en dessous du top 8 européen, c'est une anomalie. Et les gens ont raison de pointer cette anomalie. Alors après, rien n'empêche, hein, on construit tout n'importe comment, on nomme des coachs. Moi, je le trouve, c'est un avis très personnel, je le trouve incompétent, mais c'est logique qu'il y ait ces attentes-là. Et puis à ça, il faut associer toute la communication du Paris Saint-Germain, les Nasser El Khelaïfi. Notre but, ce n'est pas d'acheter Messi, c'est d'avoir le nouveau Messi. Oui, le championnat, c'est important, mais on veut gagner avec des champions. On est un projet Ligue des Champions répété année après année. Inévitablement, la Ligue des Champions fait partie du mix. Alors après, nous qui sommes suiveurs du club, on sait à quel point on est loin, on sait à quel point on est défaillant dans des postes, dans des zones qui sont clés, et qu'on ne va pas y arriver à moins d'avoir un coup de chance où tout à coup tout s'aligne et les planètes te disent bonjour parce qu'elles ont décidé que c'était toi gentil cette année. Mais que les observateurs se pointent l'anomalie entre le budget et les résultats qu'on a, ça n'est que normal.
Mais juste précision avant de passer la parole aux autres, en fait, il y a un contexte aussi, Dreyas. Oui, on n'est pas dans le top 8, mais pourquoi on n'est pas dans le top 8? Le problème, peut-être, il est en phase de poule. Mais en fait, on a toujours des tirages où on est face à un top 3, face à un top 4. Je suis désolé. Là, tu tombes sur le Bayern de Munich. Tu tombes sur le Real.
Tu tombes sur Munich parce que tu finis second derrière Benfica, Nick.
Oui, ben c'est ça. Ah, peut-être, à la limite, tu fais des bêtises en phase de poule. Mais quand tu arrives en huitième de finale, le seul huitième de finale qui n'était pas contre une équipe du top 4, on l'a passé, on est arrivé en finale. Faut dire les choses aussi. À chaque fois, tu as été éliminé contre des gros. Tu n'as pas été éliminé contre la S-Rom comme
c'est Barcelone.
Mais... Les derniers vainqueurs, regarde le parcours des derniers vainqueurs de Ligue des Champions. On n'en reparle.
Le rallye tape tout le monde l'année dernière. PSG, City,
par exemple. Et puis, il n'y a pas que.
Mais non, juste pour moi, le niveau du PSG, que le PSG soit pas une équipe favorite pour gagner la Ligue des Champions, on est tous d'accord. Que le PSG soit même pas dans les 3-4 favoris, à la limite, pourquoi pas. Maintenant, on a pu dire ce qu'on veut sur Pochettino. Tu regardes les deux parcours l'année dernière et il y a deux ans, on bat Barça 4-1 chez eux, on les élimine et on élimine Munich, même si le match allait, il y a un peu de chance, certes, il ne faut pas oublier qu'on joue avec des Becker et des Dagba titulaires. Donc on est une équipe capable quand même de battre ces équipes. Et en demi-finale contre City, on est éliminé logiquement, même s'il ne faut pas oublier aussi qu'au match aller, on les domine pendant 45 minutes dans les grandes largesses. On avait rarement vu une équipe de Guardiola acculée dans ses 30 mètres. Donc il y avait quand même quelque chose. L'année dernière, rebelote contre le Real Madrid, Paris domine 3 mi-temps sur 4. Donc un PSG qui est éliminé par City et le Real Madrid, mais qui, au moins la moitié du temps,
hop, on t'a perdu, Basto.
Sur la moitié du temps, mais...
Ah, vas-y, enchaîne, Rico.
Fais au moins.
Non, il est parti. Il est reparti.
Deux
t'as, tu bugs.
Non, mais moi, mon avis là-dessus, c'est que en fait, on donne un peu le bâton pour se faire battre parce que, bah, comme tu l'as dit, année après année, c'est on veut gagner la Ligue des Champions, on parle que de la Ligue des Champions. Tu as trois stars intergalactiques, donc forcément, tu es dans le viseur. Forcément, que on te dit, bah attends, avec les trois de devant, tu es obligé de gagner la Ligue des Champions, comme si ça fonctionnait que comme ça. Oui, et pareil pour la masse salariale. Donc forcément que tu es affilié au meilleur club du monde et que tu postules à gagner la Ligue des Champions. Maintenant, si tu connais un minimum le football et tout ce qui s'ensuit pour gagner une Ligue des Champions, bah, tu te rends bien compte, et nous les premiers, on l'a dit de nombreuses fois, que tous les ingrédients sont loin d'être réunis pour que tu fasses partie des favoris pour gagner cette Ligue des Champions. Mais je pense que tous les observateurs, les grands observateurs, le savent très bien. Simplement, je pense que ça leur fait aussi plaisir de taper sur le PSG, entre guillemets, de rigoler, on va dire, du PSG, parce que, bah voilà, ah, il y a la MNM, ils sont pas capables de se qualifier, on voit rien au PSG. Bref, je pense que ça fait un peu plaisir, je pense, à tous ces observateurs de voir l'échec du PSG année après année. Mais c'est à juste titre et c'est mérité parce que le PSG s'est mis dans cette situation lui-même en se mettant dans cette situation-là, que ce soit par rapport à l'effectif ou par rapport à l'objectif qui est tout le temps de gagner la Ligue des Champions sans même respecter ton championnat. Donc à un moment donné, on est dans cette situation à cause de nous et les observateurs, je pense que c'est plus de jouer de ça, de jouer de nous, de jouer de la situation, plutôt que vraiment de croire réellement que le PSG pouvait gagner une Ligue des Champions chaque année.
Vas-y, Basto, retente ta chance.
J'ai été coupé quand tout à l'heure?
Ton réseau, il était pas bon.
Non, mais à quel moment de tout le début?
À peu
Non,
près
t'as dit à la
vers la moitié,
moitié,
je crois. À la moitié, après, ça a coupé.
oui. Donc je disais que sous Pochettino, malgré tout, le PSG avait su faire jeu égal, voire dominer des équipes, même si contre le Real on est éliminé. Paris avait dominé demi-temps sur trois. Donc un PSG qui n'est pas favori de la Ligue des Champions, mais qui, avant un match aller-retour, on a quand même des espoirs de voir quelque chose, de voir une confrontation. Ça, c'est le PSG qu'on devrait avoir. Le niveau réel du PSG, ça devrait être ça. Aujourd'hui, on a un PSG, je disais, qui était devenu une équipe lambda, et on a l'impression que c'est une équipe de troisième chapeau qu'a affronté Munich et qui perd 1-0-2-0 et a rien à dire. Et ça ne doit pas être le PSG, le niveau du PSG, peu importe les erreurs, peu importe notre effectif, c'est pas normal.
Il a raison. Et je voulais dire que Atmom, on t'a reconnu, c'est toi Einstein.
Il critique Mbappé depuis tout à l'heure.
Exactement. Ok, prochain sujet. La question, c'est est-ce que c'est la pire élimination sous QSI dans le sens où il n'y a jamais eu espoir, contrairement aux années d'avant, où du début jusqu'à la fin. Je crois que je n'avais pas vu ça depuis City, mais c'était en demi-finale. J'ai rarement pas eu d'espoir sur un match comme ça en huitième de Ligue des Champions parce que à chaque fois on se prend des remontadas, donc souvent le match aller, on l'a gagné. Mais là, non seulement on n'a gagné aucun des deux matchs, ce qui est arrivé trois fois, je crois, mais en plus on a marqué zéro but, les gars. On a marqué zéro but sur 180 minutes. Et je ne me rappelle pas avoir vu ça du Paris Saint-Germain à
Et
huitième
on
de
n'a pas des
finale.
masses d'actions. On n'a pas que pas beaucoup de buts, on n'a pas des masses d'actions.
Franchement, celle de Vitinha, elle compte comme un but. Là, je suis désolé, mais ça
Oui,
compte
mais on
comme
n'en
un
a
but.
pas beaucoup.
Oui,
On
il n'y
n'en
en
a
a
pas
pas beaucoup, je suis
beaucoup.
d'accord
On a
avec toi.
énormément de tirs,
Ouais.
quoi, sur 180 minutes.
Non, franchement, le Bayern, ils nous ont maîtrisés. Il n'y a même pas débat. Qui commence? Vas-y, Reco.
Non, pour moi, ça ne peut pas être la pire. Avec ce qu'on a vécu par le passé, ça ne peut pas être la pire. Il y a eu beaucoup d'impuissance, certes, mais ça ne peut pas être la pire. Il faut se souvenir quand même. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Je pense que voilà, on a tous ça en tête. Mais du coup, pour moi, non, ça ne peut pas être la pire. Et puis, c'est vrai que bon, on met zéro but, mais il y a eu quand même, on va dire, un mince espoir. Parce qu'il y a eu 20 dernières minutes à l'aller où on se dit, OK, peut-être que, il peut y avoir quelque chose avec Mbappé. Il n'y a que 1-0, donc tu y crois pour le match retour. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est factuel. La première mi-temps, tu te dis, bon. La première mi-temps du match retour, tu te dis, bon, on a des occasions, on a failli marquer. Ça peut le faire, ça peut le faire. Le match va se décanter en deuxième, ça va être plus ouvert, ça peut le faire. Donc, tu y as quand même cru, tu vois. Quand tu regardes seulement le fait qu'il y a eu 3-0, qu'on ne marque pas de but, oui, tu peux te dire, bah, en fait, on n'a pas existé. Mais mine de rien, avec ces 20 dernières minutes à l'aller et cette première mi-temps au retour, il y a quand même eu un espoir. Donc, pour toutes ces raisons-là, par tout ce qui s'est passé par le passé, et si tu regardes vraiment le contenu des deux matchs, en tout cas avec ces quelques minutes d'espoir qu'on a pu avoir, non, pour moi, ça peut pas être la pire. C'est une déception de plus, mais ça ne peut pas être la pire.
Nice. Ok, ouais, je ne partage pas ton avis, en fait. Réco, pour moi, c'est non seulement la pire campagne de Ligue des Champions, mais c'est la pire saison sous QSI de très, 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 très loin. Après, ça tout dépend de ce que
tu as. On ne parle pas de campagne ou de parcours,
ouais,
on parle d'élimination. Donc c'est
mais pour moi, dans l'ensemble, on est dans la pire saison QSI. Tout dépend où tu passes ton curseur, en fait. Si tu passes ton curseur dans la possibilité de passer, ou si tu passes ton curseur dans ce que tu as vu sur le terrain. Et dans ce qu'on a vu sur le terrain, c'est quand même. C'est abyssal de ne même pas être en panique mentale comme on a pu être sur certaines saisons, et notamment la saison à laquelle tu fais référence, mais de te dire que tu es à la 60e minute, tu viens de prendre un but, tu dois marquer 3 buts et tu n'as aucun mouvement de révolte, alors que tu n'es même pas dans un état de panique mentale. Tu vois, je veux dire, la panique mentale où tout à coup tu te mets à jouer à l'envers, comme à Barcelone, même contre le Real l'année dernière. Bon, ben ça, c'est un tort, c'est machin, on peut en débattre, etc. C'est pas bien, tout ce que tu veux. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a juste rien. C'est le vide intersidéral en termes d'intention de jeu. Comment est-ce qu'on peut être plus bas que ça? Je veux dire, la faillite mentale, c'est au moins une faillite. C'est une émotion négative. C'est quelque chose que tu peux nommer, que tu peux raccrocher à quelque chose. Là, il y a quoi? Il y a combien de tirs au but à partir de la 60e, alors que tu dois en mettre 3. Il y en a un, c'est une tête de Ramos qui n'est pas cadrée. Et sinon, il n'y a rien. On peut pas. C'est le degré zéro, quoi.
mais justement, par rapport à ça, il y a aussi moins d'attentes, il y a aussi moins de déceptions. Et c'est pour ça que ça n'en fait pas une des pires éliminations. Tu vois ce que je veux dire? Dans le scénario.
Je vois ce que tu veux dire, mais c'est la plus.
C'est là où il y a eu le moins.
On est au degré zéro. Effectivement, on attendait moins.
En fait, cette élimination est très comparable, je ne sais pas si vous en souvenez, à l'élimination en quart de finale contre Barcelone, deuxième année sous Laurent Blanc, où on se prend 3-1 au Parc et 2-0 à Barça, je crois, et on n'existe pas pendant 180 minutes. Et il y a même un parallèle intéressant, c'est qu'on met David Luiz blessé à 50%, qui se pète aussi au bout de 25 minutes, comme Marquinhos l'a fait. Donc, il y a un parallèle sur ce qu'on a vu, c'est-à-dire un néant pendant quasiment 180 minutes, et une gestion du coach qui ne te comprenait pas. Donc voilà, pour moi, ça revient un peu à ce sentiment d'impuissance. Je l'avais eu cette deuxième année-là sous Blanc. Après, oui, la pire, si on parle en thème d'émotions négatives, évidemment, les remontadas, Coach United, de Barça, hein, évidemment. Mais en termes de, comme l'a dit Dreas, en termes de vide, dans une confrontation du fait qu'il n'y ait pas eu quasiment espoir pendant une seconde sur un match, c'est ce Barça sous Blanc et ce Munich. Ouais.
Il y a Franck qui nous dit, il n'y a qu'en France qu'on parle de ces ratés quand tu gagnes le championnat. Hallucinant. Ouais. C'est pas complètement faux.
Le Real qui vire Capello avec les supporters qui mettaient le drapeau blanc parce qu'ils n'ont pas vu de jeu toute l'année alors qu'ils gagnent le championnat. On l'a vu aussi. Quand il n'y a pas de jeu, ils virent leur coach aussi.
Basso, faut peut-être rappeler que le budget du deuxième de Ligue 1, c'est quoi? C'est un huitième du budget du Paris Saint-Germain ou un truc dans le genre? Après, je n'ai pas les chiffres en tête, quoi. En fait,
on aurait été champion en première. Tu nous mets dans le championnat en première ligue. Exactement. On se serait satisfait du titre. Hein, quand ils ont une saison ratée quand City, par exemple, a une saison ratée en Ligue des Champions, mais qui gagne le titre en PL. Et c'est un magnifique titre, c'est une saison réussie. Mais au PSG, par rapport aux joueurs qu'on a, à la différence abyssale de budget avec les concurrents, avec le niveau de jeu aussi de certains concurrents directs, et le peu de jeu que nous, on voit dans notre club, et les matchs très peu aboutis, voire quasi pas aboutis, et forcément qu'on est obligé de dire que c'est une saison ratée. Tu te fais sortir en huitième, tu finis deuxième de ta poule de Ligue des Champions. Voilà, au bout d'un moment...
Je fais souvent un parallèle. C'est comme si Djokovic gagnait un ATP 250 et était nul en Grand Chelem, et qu'on disait qu'il satisfait de sa saison.
Ouais, exactement. On a un Vincent qui a changé de d'icône.
Je suis pas encore à ce niveau là, je vais voir tout à l'heure.
MSN, MNM. Il y a pas longtemps.
J'ai vu pas mal de choses. Il y a Lassana qui nous parlait d'un Discord. Oui, on a un Discord, j'ai mis le lien dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui nous a dit pourquoi on stream pas sur Twitch. C'est parce que vous êtes un peu plus nombreux sur YouTube que sur Twitch, mais si vous ressentez le besoin qu'on aille sur Twitch, faites-nous le savoir en commentaire. Troisième chose, n'hésitez pas à liker. Si on a atteint les 100 likes, on invite un d'entre vous pour le prochain live. Donc, likez. Et ensuite, on va passer au prochain sujet. premier huitième de finale de Galtier. Est-ce que quand tu prends un coach et que tu veux gagner la Ligue des Champions, est-ce que c'est raisonnable de prendre un mec qui a jamais joué un huitième de finale? Je ne dis même pas un mec qui a gagné un huitième de finale. Un mec qui n'a jamais joué un huitième de finale de Ligue des Champions en tant que coach. Est-ce que c'est quelque chose de raisonnable? Est-ce que c'est pas quelque chose de complètement fou? Basto, je te laisse la parole.
En soi, quand Barça prend Guardiola et le Real Zidane, ils n'ont jamais joué un huitième de finale de Ligue des Champions.
C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de voir déjà l'expérience qu'avait pu avoir Galtier dans d'autres Coupes d'Europe, c'est-à-dire que ce soit avec Lille ou Saint-Etienne, il avait quand même énormément. Hein. Alors, il y a eu cette victoire probante contre Milan à C3-0, mais à côté de ça, il y a eu des défaites contre des clubs de seconde zone, de pays du tiers-monde comme la Moldavie, etc. Il avait un bilan européen qui n'était pas bon, qui était déjà pas bon. Et donc le problème, il n'est pas là. Il n'est pas là. Si on prend un coach très compétent qui n'a jamais fait de huitième finale de Ligue des Champions, pareil, Ten Hag, avant de faire sa demi-finale avec l'Ajax, il n'avait jamais fait de huitième de Ligue des Champions. Mais il a les compétences et il a le niveau pour. Donc le problème, c'est pas, même si effectivement, dans un club pour le PSG, pour gérer des stars comme Neymar, Messi, etc., on le dit, il faut des coachs qui ont connu, qui sont plus grands que ces joueurs-là, qui ont connu des grands moments en Ligue des Champions. Donc oui, ça joue, mais c'est pas le principal. C'est juste que Galtier n'a pas le niveau de la Ligue des Champions, tout simplement.
Ah, merci Samir. Le PSG condamné à l'échec, pour moi, oui, sauf s'il y a des réels changements au sein du club et pas seulement les belles paroles de Nasser. Merci beaucoup Samir pour le don. Je vous laisse continuer, vas-y Adres.
Pour aller plus loin par rapport à ce que dit Samir, c'est pas des réels changements au niveau des belles paroles de Nasser, c'est juste un réel changement, c'est-à-dire Nasser qui s'en va. Galtier, si on fait le résumé, c'est en termes de satisfaction, c'est 6 mois. Hein. C'est ces 6 premiers mois à Lille où tout à coup ça joue vraiment bien. Et puis là, tu as les adjoints qui sont d'ailleurs venus au Paris Saint-Germain. Il faudra un jour qu'on rouvre le dossier Sacramento. Les adjoints qui s'en vont et le jeu de Lille se liquéfie. Quand est-ce que Galtier a apporté quelque chose en football? Quand est-ce qu'il a montré quelque chose? Tu vois, par exemple, tu as Ten Hag qui débarque à United. Oui, mais voilà, Ten Hag, il a fait ce qu'il a fait à l'Ajax. Tu as un tel, ou sinon tu vas avoir les solutions internes qui sont utilisées. Il y a une cohérence, il y a un intérêt, il y a une appétence avec Galtier. Tu as 6 mois à Lille et ensuite de ça, tu as un championnat qui est gagné, qui est c'est très très laid. C'est très très laid les 6 derniers mois du Lille de Galtier. Et sinon, il a fait quoi à Saint-Etienne? À quel moment il y a eu un match, ne serait-ce qu'enthousiasmant, sous Galtier? Rien eu. C'est pas le fait qu'il n'ait pas gagné du 8e et tout ça. C'est juste qu'il a. Quand est-ce que Galtier a proposé quelque chose dans le jeu, autre que ces 6 mois-là où il était bazardé d'agents, et une fois que les agents sont partis, ben, il n'y avait plus rien dans le jeu. C'est plus ça le problème.
Et juste comme avant, j'ai vu quelqu'un dire dans les commentaires qu'ils ne comprennent pas comment en France les journalistes ils sont aussi contents que le PSG et l'IMAD et tout ça. Mais en fait, j'ai entendu, je crois que c'était Dugarry qui parlait dans la semaine et qui disait qu'il est content que le Paris Saint-Germain il est éliminé. Bah, en fait, il ne faut pas prendre les choses de manière littérale. En fait, il t'explique, il te dit derrière, moi dans le foot, j'aime bien voir que les gens qui travaillent bien réussissent à gagner des titres. Mais le Paris Saint-Germain, en fait, c'est plus au niveau de la direction. Tu dis, c'est des mecs, mais ils travaillent ultra mal. En fait, tu n'as pas envie de voir ces mecs-là gagner. Nous, en tant que supporters, bien entendu, on veut que le Paris Saint-Germain gagne. Mais vu de l'extérieur, les mecs, ils te disent, bah, en fait, l'effectif, il a ni queue ni tête. La politique sportive, elle a ni queue ni tête. Il n'y a rien qui va dans ce club. Donc, personne n'a envie qu'on gagne. Et c'est là peut-être la différence avec l'Allemagne et l'Italie, où genre les journalistes sont pour leur club, parce que c'est des vrais clubs, c'est des trucs, il y a vraiment, nous, faut dire les choses, on a Nasser qui connaît rien au foot,
il y a des balles
qui est entouré par des gens qui connaissent rien au foot, et les gars, si on est complètement objectif avec nous-mêmes, le Paris Saint-Germain n'a ni queue ni tête, il se passe tout et n'importe quoi, il n'y a aucune logique, aucune cohérence, je vois pas en quoi... Vous voyez que le Paris Saint-Germain peut gagner des choses en fonctionnant de la sorte.
Ouais, c'est la pire gestion d'Europe. C'est la pire gestion d'Europe. Mais de toute façon, tu as tout dit. Hein. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Simplement, oui, c'est la pire gestion d'Europe. Et après, il y a des choses aussi qui font qu'en France, c'est un peu compliqué. Parce qu'on sait qu'en France, voilà, on a du mal avec. Enfin, beaucoup ont du mal avec. Parce que ça reste pas, je pense pas une majorité, mais beaucoup ont du mal avec des gens qui ont de l'argent. avec un club de foot qui a de l'argent, avec l'argent des Qataris, voilà, les pétrodollars, le gaz que vous voulez. On sait qu'il y a souvent des soucis avec ça. En plus de ça, il y a forcément une mauvaise gestion. Je comprends moi, ce que dit Dugarry. Donc forcément, déjà, dans le foot, tu as du mal à avoir envie de voir gagner un club riche, parce que c'est pareil avec Manchester City. Il y en a énormément qui ne veulent pas voir gagner ces nouveaux riches. Et du coup, c'est le cas aussi du PSG, forcément.
Mais il y a une question, c'est pas si simple en fait, parce que si tu veux, tu peux en effet te dire, ouais, le Paris Saint-Germain est complètement incohérent et blabla, et il y a la différence entre les paroles et les actes, ils sont un peu ridicules et tout, et tout, et tout. Mais il y a malgré tout en France une vraie difficulté, comme le disait Recoba, mais plus que l'argent, une vraie problématique par rapport à la performance, par rapport au talent, par rapport à fêter le talent. On peut tous se souvenir de la bisbille entre, je ne sais plus comment s'appelait l'entraîneur français en 98 et le journal de l'équipe. D'une manière générale, la manière avec laquelle l'événement sportif et la performance est mise en avant en France est très discutable. Et tu peux te demander, c'est est-ce que le PSG est incohérent? Parce que ils ont fait n'importe quoi, et dans ce cas-là, les journalistes français ont raison de taper dessus, ou est-ce que c'est parce qu'on est dans cette espèce de difficulté à mettre en avant la performance dans un pays où c'est très difficile de le faire, que c'est très difficile de créer des structures, etc. etc. Donc si tu veux, l'argument des journalistes qui ont raison sur le Paris Saint-Germain, oui, mais aussi non, parce qu'il y a un climat par rapport à la performance qui est plus délétère en France qu'il ne l'est dans d'autres pays.
Pour lire souvent l'équipe met souvent en avant ce que fait le PSG de bien, dans les grosses c'est pas par rapport à forcément ce que tu as dit, mais beaucoup de Parisiens se sentent persécutés par la presse comme quand on est l'équipe à abattre. C'est juste que PSG fait plus parler, donc on va faire plus de une négative, mais elle fait aussi plus de une positive en contrepartie.
Ok, bon, on va passer au sujet suivant. On va pas faire des joueurs qui régressent au Paris Saint-Germain, ça va m'ennuyer un petit peu. Vas-y, on passe à ma liste de joueurs à virer absolument.
C'est trop longue.
Ouais, j'ai pas envie d'expliquer pourquoi les joueurs régressent, ça va ennuyer tout le monde. On va passer à la liste des joueurs à virer absolument cet été.
Le freudien de l'analyse.
Donnez-moi, vas-y, trois joueurs qui doivent absolument quitter le Paris Saint-Germain cet été.
Nasser et Nasser.
Vas-y, Recoba, t'as l'air plus sérieux sur la question, vas-y.
Je suis tout aussi d'accord avec lui pour Nasser, mais si on reste sur les joueurs, moi c'est Messi, déjà, premièrement. Neymar aussi, je l'aurais bien mis dedans, mais malheureusement avec sa blessure, ça va être impossible. Donc ce sera Messi, je dirais. Ramos, mais moi, Ramos, en fait, j'aurais bien aimé le prolonger uniquement s'il baisse drastiquement son salaire, parce que ça peut être un joueur qui t'aide, qui te fait grimper les jeunes, qui apporte quand même du professionnalisme et une bonne mentalité. Je pense que ce n'est pas un joueur négatif dans le club, bien au contraire. Donc personnellement, j'aurais gardé Ramos s'il baisse vraiment son salaire. Mais si ce n'est pas le cas, et on va partir sur le fait que ce ne soit pas le cas, je dirais Messi, Ramos, et quel troisième on pourrait? Est-ce qu'on mettrait un Verratti ou un Marquinhos dedans? J'ai un peu de mal. En fait, si tu fais un gros chamboulement comme ça, c'est il faut en garder, quoi. Donc, allez, Marquinhos, si on doit le prolonger à 18 millions comme on a vu passer, moi je le laisse partir.
Vas-y, Dryas, t'as l'air prêt à
dégager. Après, il n'y a plus les problématiques de contrat et tout ça. Hein. C'est les trois qui s'en vont, c'est Neymar, Marquinhos et Verratti.
Allez, gardes Messi.
Ouais, je garde Messi. J'ai le droit d'en virer avec 3. Après, si tu me laisses en virer 4, je rajoute Messi. Hein.
Mais tu gardes Icardi par
mais les trois premiers que je vire, c'est Neymar. Je suis désolé, Neymar tout le temps blessé, jamais là quand il faut. Quand il est là, une fois sur deux, il ralentit le jeu. Oui, c'est un joueur de talent, mais il y a un moment où tu ne surpayes pas un mec pour qu'il soit tout le temps absent. Marquinhos et Verratti, c'est les symboles en fait de je ne sais pas combien de campagnes. C'est des mecs qui commencent à puer la loose à 25 km. En plus de ça, si on prend un Marco Verratti, moi j'ai des critiques sur le joueur, mais depuis 2023, il aligne pas un pied devant l'autre. Bon, t'as Marquinhos qui revient bien, mais Marquinhos, il vient nous enchaîner un an et demi où il ressemblait à rien. Les deux mecs sont en permanence mis en avant, c'est limite des leaders de vestiaire, c'est blablabla. allez dégager, circuler, on construit quelque chose de nouveau. Ouais, si je dois en virer que 3, c'est ces 3-là que je vire. Et après, effectivement, Messi, il n'a plus rien à faire au club.
Basto.
En plus, il y a tous les revenants, les Draxler, Icardi, Kurzawa, Paredes,
ça va être fait. Je crois que j'ai été trop sévère avec les trois, là, parce que ne serait-ce que tous ceux qui reviennent de près, déjà, ils doivent dégager.
Ah, bah, de toute façon, alors, il y en a moi, beaucoup. Ça
sera Messi, Neymar et Verratti. Marquinhos aussi pourrait dans la charrette, mais peut-être déjà la blessure de Kimpembe et puis derrière la défense. Donc Messi, Neymar, Verratti. Après, il y en a qui disent évidemment, vous citez pas Mbappé. Mbappé, s'il y a une offre de 200 millions d'euros à un an, contrat en sachant qu'il risque de ne pas prolonger cette fois-ci, je réfléchis plus qu'à deux fois. Hein. Je pense que je le vends aussi en cas de grosse offre. Mais Messi, Neymar, Verratti, quand même.
En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que comme tu dis, Rias, même si je te trouve un peu dur, bah en fait, c'est l'ossature défaillante de toutes ces années. Donc, à un moment donné, ça suffit. Et pour le coup, on va dire, les années précédentes, on prenait des pincettes en se disant, bon, lui, il faudrait qu'il parte, mais vas-y, Verratti, on va le garder. Marquinhos, on va le garder parce que si, parce que ça, ou tel joueur. Mais à un moment donné, ça y est, ça suffit. Sept dernières années, 5 éliminations, 8e de finale, ça ne fonctionne pas. Donc, stop. À un moment donné, il faut changer. Donc, même s'il y en a certains qui peuvent nous trouver durs, à un moment donné, ça suffit.
Réco, il y a ton homme de base du milieu, c'est limite. Enfin, de combien de fois on a entendu, ouais, mais Marco Verratti n'est pas assez bon parce que, excuse-moi Nix, hein, mais parce qu'il est trop mal entouré, etc., etc. Et c'était à chaque fois l'homme central. C'était celui sur lequel tu construis ton projet au milieu, année après année, après année, après année, après année. Alors après, on peut lui trouver les circonstances atténuantes. Néanmoins, c'est celui qui a porté le projet. Pareil, Marquinhos, ça fait combien de temps qu'il est capitaine? Ça fait combien de temps qu'il est censé porter l'équipe? Il y a et l'historique et la place qu'ils ont dans l'effectif. Parce qu'on parle de la place de Messi, de Neymar, de Mbappé qui impose, qui, etc. Mais les Verratti et Marquinhos, ils occupent une place mais monstrueuse au sein de l'effectif. C'est genre, t'as l'impression limite que c'est les Titi qu'on a découvert qui seront Titi jusqu'à 90 ans. C'est pas les vrais Titi parce qu'ils viennent pas du parc, mais quasiment, ils sont arrivés, ils avaient 19 ans, blablabla. Et ils seront Titi jusqu'à 90 ans, les mecs. Sauf qu'à un moment, il faut regarder qu'ils sont performants, quoi, et qu'ils ont pas apporté les réponses qu'on attend.
Mais j'ai pour vu répondre la lumière, à Marc Zielinski par rapport à est-ce qu'on a pas trop de chantier pour se passer de l'ossature, c'était ma réflexion tout à l'heure, c'est pour ça que j'hésitais par rapport à Marquinhos et Verratti, mais quelque part je me dis en fait c'est parce qu'on voit à court terme, si on voit l'année prochaine, ouais, on peut se dire bah vas-y, on va garder Marquinhos et Verratti, on a d'autres chantiers pour essayer de gagner en fait déjà immédiatement dès l'année prochaine, mais en fait je me dis que le mieux c'est de faire une saison l'année prochaine, vraiment en reconstruction. On ne vise même pas la Ligue des Champions. On bouge le maximum de joueurs et on repart vraiment sur un vrai nouveau cycle, quitte à ne même pas passer les poules de Ligue des Champions. Mais au moins, on repart sur vraiment quelque chose qui va se préparer dès la saison prochaine et dans les futures années pour arriver à être au top dans 2 ou 3 ans. Tu vois.
Très rapidement, et après, je laisse la parole à Basto. Et si tu fais ça, tu es quasi sûr d'être deuxième, troisième, en fait. C'est-à-dire que tu sacrifies ta saison européenne. Tu sacrifies même pas tes futures saisons européennes si tu fais ça, en fait.
Mais on en revient à ce que je dis depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on nous dit qu'on est dans une saison de transition, mais de transition de rien. On est dans la continuité globale depuis des années. Tant qu'on refera, je l'ai dit, plein de lives, mais tant qu'on refera que le papier peint et qu'on laisse les fondations bouffées par les mythes qui sont en train de s'écrouler, la maison, elle s'écroulera. Au bout d'un moment, il faut refaire les fondations. Si tu ne les refais pas, on voit ce qu'on observe. Hein. Ça fait, on s'écroule petit à petit et on arrive à toucher le fond alors qu'on se disait que ce serait dur de faire plus mauvais que la saison passée globalement, pas en termes de jeu, mais en termes de résultats, et on a fait pire, quoi.
Très rapidement, Marc, le truc c'est qu'on, quand on parle, on est en train de parler de Marquinhos et de Verratti, on a des chantiers qui sont autrement plus prioritaires, même si effectivement Bernat c'est plus possible. Mais après Nuno, c'est un titulaire indiscutable, seul problème c'est ses blessures. T'as Hakimi qui est un petit peu, mais t'as Mukiele qui mine de rien semble apporter un début de réponse. C'est le projet des latéraux en plus qui ont été trimballés dans une défense à 3 ou dans une défense à 4 et qui ont dans l'ensemble, même s'il y a des problèmes en effet, mais qui ont dans l'ensemble su répondre c'est vraiment pas la priorité. C'est le milieu, ça fait combien de temps qu'on en parle? Le milieu, ça fait depuis Thiago Motta qu'on n'arrive pas à trouver de solution. L'attaque, elle est défaillante. On a des 10 qui ont des charrettes, qui savent plus jouer. qui savent plus jouer, je suis beaucoup trop dur, mais on a un Neymar qui est jamais là, qui met à chaque fois trois matchs pour revenir, qui va se blesser, mais trop trop souvent. On a un Messi qui de temps en temps est flamboyant et de temps en temps te rappelle pourquoi, à quel point il est un immense joueur, mais qui sans déconner, t'as des matchs qui traversent, ça devient un zombie sur un terrain. Et les chantiers sont tellement tout part que si tu commences à te demander les latéraux, alors que les latéraux, t'as quand même, peut-être c'est un peu scabreux, mais t'as quand même un début de réponse. Là, c'est même plus une refonte de l'effectif. C'est tu vires tout le monde et puis tu recommences à zéro. Il y a un moment où tu vas quand même garder quelques trucs, quoi, même s'ils sont pas à 100%.
Juste pour te répondre, tout à l'heure concernant le cas Verratti, je pense qu'on arrive à un stade où j'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière sur Marco. Parce que en fait, j'ai tout compris. Marco, en fait, il est tellement fort avec le ballon. Il est tellement fort comme joueur. Limite, j'en ai déjà. Je pense qu'il est top 3 joueurs j'ai vu avec un ballon.
Si
limite,
en termes de niveau.
Hein, tu en vois par exemple niveau, Neymar quand il dribble, tout le monde est au sommet. Waouh, il est trop fort et tout. Mais Verratti, quand il dribble, c'est un truc de fou. Parce que 9 fois sur 10, personne ne lui prend le ballon.
Quand il c'est juste pas quand il dribble, c'est quand il driblait. Parce que ça, c'était avant 2023.
Mais vas-y, non, mais ça encore.
Il a dribblé contre Militao.
Mais en fait, le problème, c'est que c'est tout. C'est en fait le mec. J'ai entendu ça dans la semaine et ça m'a frappé et j'ai vu la lumière. On m'a dit, Verratti, c'est un joueur de 5. Et en fait, j'ai revu tous mes potes avec qui je joue au 5 et qui, franchement, techniquement, ils broient n'importe qui en Ligue 1. Ils sont tellement forts. Ils les terminent sur un terrain. Mais les mecs, ils n'ont pas le côté professionnel à côté. C'est des mecs qui sont ultra forts. Peut-être qu'ils ont été en centre de formation et tout ça, mais ils n'ont pas le cadre professionnel derrière qui va avec. Et Verratti, c'est pareil. Footballistiquement parlant, c'est au-dessus de 90% des joueurs que j'ai vus dans ma vie, mais QI football, des fois, c'est ultra limité.
Et il a fallu 7 semaines pour voir la lumière avec nous.
Je pense que tu vas un petit peu loin là, Nix, mais c'est la phase du deuil. Si tu veux, t'es dans la phase du deuil, il est un peu au-dessus qu'un joueur de 5 quand même. Il est un peu au-dessus qu'un joueur
de 5. C'est la même chose.
C'est un joueur avec lequel il est extrêmement compliqué de construire un effectif parce que d'une certaine manière, il a des qualités d'un poste avec ballon et sans ballon, il a les qualités d'un autre poste. Et tu es obligé de. C'est tu t'arraches les cheveux, en fait.
C'est plus que ça.
Pour pouvoir jouer avec Marco Verratti.
C'est plus que ça. Il a raison, Onyx, dans ce côté genre de five, cognitivement parlant et dans l'intelligence de jeu, il fait pas les bons choix, il l'oriente mal. Rien que sur le but contre Munich, au-delà de son dribble, il oriente son corps du mauvais côté. Et c'est ça qu'on a oublié de terrain. Il va s'orienter son corps. Alors que le jeu est à droite, ça laisse-moi finir. Il va seulement orienter son corps, le jeu, sur la gauche, alors que tout le couloir est à droite. Combien de fois que j'ai vu Verratti se retourner. Tu te dis d'arrêter de couper la parole, tu fais que ça. Laisse-moi finir. C'est bon. Je dis juste, Verratti, tu vois au milieu de terrain, tu peux faire 20 séquences par match où il fait un mauvais choix d'orientation, que ce soit du corps ou du jeu. Donc non, il ne comprend pas le football comme un Messi peut le comprendre, même s'il rate beaucoup, va plus faire le bon choix. Verratti n'a pas. Alors il a pas un QI foot dégueulasse, mais il n'a pas l'intelligence de jeu des plus grands à son poste.
Merci. Parce qu'on était un peu dans l'extrême. Je suis le premier à avoir critiqué Marco Verratti et je suis le premier même dans le temps.
Tu ne le critiques pas trop sur son choix de jeu, d'orientation qui est son principal défaut.
Mais ça fait 8 ans. Mais par contre, là, on commence à aller un peu loin. Genre, aucun QI foot et joueur de 5, peut-être pas. On va dire que Nyx est dans la phase de deuil. Et donc,
En fait, c'est pas ce que je te dis. En fait, Dryas, il y a des joueurs qui sont arrivés professionnels, mais ils n'ont pas tout le pack. Il y a plein de joueurs, par exemple, ils sont arrivés professionnels grâce à leur capacité physique. Il y en a d'autres, comme Verratti, qui sont arrivés joueurs professionnels pour leur capacité footballistique. Mais en fait, être footballeur de très très haut niveau, ça englobe plusieurs packs que tu dois avoir. Oui. Et Verratti, il lui manque un ou deux packs. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il ne va pas arriver au très 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 haut niveau, parce qu'il a des packs en fait qui sont très importants pour un joueur, et il ne les a pas. Le fait qu'il soit tellement bon, en fait, ça éclipse tout le reste. Mais tôt ou tard, avec l'âge, en fait, tu commences à voir le reste de plus en plus. Ok, il y a Quoi d'autre comme question? Bah écoutez, on va passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions, si vous voulez dire des choses entre-temps, les gars. Ah, j'ai vu une question.
Il y a plein de choses. Il y a peut-être l'incapacité à progresser. En tout cas, il ne progresse pas. On voit qu'il a besoin d'être entouré parce que justement, il y a trop de lacunes dans son jeu. Et le Prime Verratti, en vrai, c'était aux années de Mota Matuidi. Hein. Il a fait quelques masterclass et tout en Ligue des Champions dans les grands matchs et tout ces dernières années, oui, mais c'est trop limité.
Et n'oublions pas qu'on fait les deux campagnes finalement finale et demi, il n'est pas là. Hein. Il est absent. Donc le côté indispensable aussi de Marco.
J'ai vu une question tout à l'heure passer, je l'ai noté. Qui fait des passes D à part Messi et Neymar? Et à cette question-là, je vais rajouter pourquoi aucun de nos milieux de terrain ne marque des buts. Ça, c'est quasi. Moi, j'ai vu par exemple Marseille. Je crois que tous leurs défenseurs, c'est même pas leur milieu de terrain, leurs défenseurs ont marqué plus de buts que nos milieux de terrain.
Il y a Soler en marque, même s'il a pu être lié, c'est plus un 8-10, donc Soler en marque.
Mais il y a Soler qui est capable d'en marquer, de frapper loin, de projeter. Il y a Fabien Ruiz aussi qui le faisait avec Naples, mais au PSG qui le fait beaucoup moins. Mais le truc, c'est que ces joueurs-là sont capables de le faire, mais dans l'équipe dans laquelle ils sont, bah, ils n'ont pas besoin de le faire. La plupart du temps, la plupart des matchs qu'ils ont joués, bah, il y avait la MNM. Et la MNM, elle fait déjà tout. Elle vient de chercher le ballon au milieu de terrain, elle te le remonte, ils jouent ensemble, ils marquent, ils font les passes décisives. Donc forcément, ces joueurs-là, ils n'ont même plus besoin de faire ce travail-là. Donc petit à petit, le temps passe, bah, ils n'ont plus vraiment l'habitude et ils n'ont même plus dans leur tête le déclic de se dire « il faut que j'aille faire la différence moi, il faut que je vienne aider, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Donc, ils ne se projettent même plus au final. Ou alors souvent, ils se projettent, on a déjà vu hein, Fabien Ruiz se projeter et n'être même pas servi alors que c'était la meilleure solution, mais il n'est pas choisi. Il y a beaucoup de joueurs comme ça et au final, ça les bride et au final, ils n'ont même plus envie de monter ou ils n'ont même plus le mécanisme de leur football de se projeter, d'aller marquer, de frapper, de donner une passe décisive.
Il y a quelque chose dans les commentaires qui revient régulièrement et on nous dit qu'on n'y répond pas. Par exemple, Drissigno. En fait, moi, je ne vais pas aborder le cas Nasser parce que Nasser, il ne bougera pas. En fait, j'essaie de faire avec ce qui peut bouger. L'émir ne mettra personne d'autre que Nasser parce qu'il a confiance en Nasser. Et jamais tu verras quelqu'un d'autre arriver et dire qu'il prend la place de Nasser. Parce que là, tu te rends compte que Nasser, il est dans 34 organisations différentes et il n'a toujours pas mis quelqu'un d'autre alors qu'on le voit de moins en moins. Là, il a l'UFA, il a l'ECA. Je crois qu'il est même dans des trucs de d'autres sports qui n'ont rien à voir avec le foot. Et tu vois, il est toujours là. En fait, il ne partira pas, ce mec-là. Tant que le Qatar sera propriétaire, Nasser n'ira nulle part. Donc, moi, j'essaie de voir plus côté DS, côté joueur, ce qu'on peut faire. Mais côté direction, c'est impossible. C'est absolument impossible.
J'ai essayé à ce niveau-là, Nix. Le problème, c'est que tu as tout essayé, en fait. Tu vois, le truc, c'est que si on fait le bilan, tu prends Campos, alors c'est peut-être pas le mec qui douane, peut-être que d'autres auraient été plus, mais on a enfin le petit mec qui est capable de faire les petites opérations, aller trouver des mecs, etc., etc., etc. On a eu Leonardo qui était le patron à l'italienne, machin, on va négocier, là, 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 et on a eu le mafieux, très, très bon d'ailleurs, qui a peut-être été mon préféré, qui était Antero Henrique. Et je veux dire, t'en es à te demander quel profil de DS tu n'as pas testé à ce jour, en fait. Tu vois, le truc, c'est qu'il y a un moment, ouais, tu changes, enfin, c'est un peu cliché ce que je veux dire, tu changes l'entraîneur quand ça joue pas bien. Puis une fois que tu as changé trois fois d'entraîneur, bah, faut peut-être changer de directeur sportif, puisque c'est celui qui choisit les entraîneurs. Puis une fois que tu as changé trois fois de directeur sportif, bah, alors ouais, je sais que Nasser peut pas s'en aller, mais la question, c'est est-ce qu'il y a une solution si Nasser reste? Et on a essayé le Nasser sans directeur sportif. Hein. Faut se rappeler qu'Olivier Le Tang n'était pas directeur sportif. Il était adjoint du directeur sportif alors qu'il n'y avait pas de directeur sportif. On a même essayé le directeur sportif Wok avec Patrick Kluivert. Enfin, je veux dire, on a vraiment fait tous les... Tu prends Patrick Kluivert, Leonardo, Enrique et Campos, cite-moi un profil de DS que tu n'as pas fait. Quoi. Tu les as tous faits. Tu les as tous faits. Mais oui, mais Edwards, c'est un Campos upgradé, si tu veux.
Bah, c'est un profil différent quand même, parce que c'est
lui. Oui, mais dans l'idée, tu chipotes. Dans l'idée, tu chipotes. Et si tu veux, tu es dans le fantasme de supporter. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas avec un Campos, qu'est-ce qui te ferait dire qu'avec un Edwards, ça va fonctionner? C'est ce que je veux dire, c'est qu'en termes de mindset, tu as essayé les 4-5 types
de directeur sportif et Edwards, oui, c'est en fait Edwards, c'est Campos 10 ans après, en fait, si tu veux. Mais c'est le même profil.
Bah, c'est pas un profil, non, c'est pas un mec qui va faire 60 recrues et il y en aura
mais bien 10 sûr, mais si, c'est ce que je te dis, Basto, c'est que c'est le même profil 10 ans après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du mindset, c'est le même genre de gars. En fait, le point, si tu veux, c'est qu'après, si tu veux, tu peux. Ce qui est ma lecture, hein. Tu peux, attends, je vais mettre en haut parce que on voit. Tu peux adapter ton truc à ton fantasme en te disant, ah bah tiens, si on fait le mec que je veux, peut-être que ça va fonctionner. Mais tu peux aussi te dire, mais fondamentalement, on a essayé tous les profils, on a essayé tous les types, les méta-types de directeurs sportifs, et que fondamentalement, mais tu peux pas virer Nasser, mais tant que Nasser reste, en fait, il y a juste pas.
Il y a le profil Zlatan qu'on a pas signé en DS vu qu'il se vend pour être DS et qui dit que ça filerait droit.
Ouais, et sinon il y a les profils coach DS qui cassent tout à la Conte, voilà, à la Mourinho, etc.
Sauf que ces profils-là au PSG, tu peux pas, avec Doha, avec Nasser qui fait yesh tout le temps, qui veut placer ses joueurs, qui veut ci, qui veut ça. Tu peux pas avoir ces profils-là. Bien sûr que ça marcherait au PSG, j'en suis certain. Mais pourquoi on n'a jamais eu un entraîneur de classe mondiale au PSG? Parce qu'il sait très bien qu'il peut pas faire ce qu'il veut. Et tout simplement, et le directeur sportif, c'est pareil. Du Zlatan, il avait proposé ses services, mais un directeur sportif avec le caractère de Zlatan, ça marcherait pas. Il faut quelqu'un qui soit assez malléable. Donc non, c'est pas possible, malheureusement. Mais ce serait bien, effectivement.
Bah, Atnom FX, je te rejoins, parce que quand j'ai écrit ce titre, je te cache pas que je me suis dit, en fait, on va parler, mais je pense que dans 5-10 ans, ça va toujours être comme ça. Et que dans tous les cas, l'année prochaine, elle va ressembler à cette année. L'année d'après, elle va ressembler à cette année également. Parce qu'en fait, le fait que Nasser soit là, ça ne me dérange pas, entre guillemets. Mon problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi il intervient sur le sportif. En fait, que tu sois président, absent, en fait, ça, j'en ai rien à faire. En fait, tu ne fais pas ton taf, ok, d'accord. Mais pourquoi tu imposes des trucs à tes DS? Pourquoi tu imposes des trucs alors que tu n'es jamais là? Si tu as envie d'être DS, président absent, va faire la JV, veut faire du MMA. Va faire du MMA, fais ce que tu veux, c'est pas grave, on n'aura pas de président. Mais viens pas imposer aux gens tes Messi et tes bêtises comme ça là, parce qu'au final, après, t'as un mec qui veut tirer par là, t'en as un autre qui veut tirer par là, et ton club, il a ni queue ni tête.
Nick, c'est way pire que ça. Souviens-toi de Bel Silva qui envoie un texto directement à Nasser parce qu'elle n'est pas contente que son mari n'est pas sur le terrain. C'est way pire que ça. C'est pas seulement qu'il impose des choix au directeur sportif, c'est que les joueurs l'appellent pour wine quand ils sont pas contents de la situation. Alors ça s'est un peu calmé, mais c'est bien pire que ça. S'il y a une connivence en fait entre les stars et l'encadrement qui fait que c'est helpless, que t'as juste zéro solution en fait.
Arrête avec ton anglicisme là.
Ouais, mais je suis désolé, je suis obligé de me la péter. Tu sais, j'ai parlé du woke avec Patrick Kluivert. Je suis le woke de Paris Central, moi, tout le
monde. Non, mais en fait, Nasser, il peut faire ça parce que les joueurs, c'est des stars. Mais si tu te débarrasses, entre guillemets, de tout ce qui est star, par exemple, je doute que Vitinha envoie un message à Nasser et que Nasser il dise à Campos, ton gars là, laisse-le jouer.
Et avec Marco, hein, et à l'époque où ils n'étaient pas encore des stars. Et il le faisait déjà, c'était ses joyaux, c'était ses joujoux.
Oui, mais il faut envoyer tous ces joyaux à la poubelle, là, les Marquinhos, les Verratti, tous les gens qui sont les chouchous de Nasser dehors. Est-ce que les mecs, en fait, Verratti, je comprends pas comment des fois il finit des matchs, alors que... j'ai entendu un autre truc.
Le plus gros hater, Nick, ça va devenir le plus gros hater de la
planète. C'est pas ça. Moi, j'ai entendu des trucs cette semaine. Là, tout le monde a ouvert les dossiers Verratti et j'ai entendu des trucs. Ça m'a fait trop rigoler. Et là, j'ai les yeux grands ouverts. Comment il y a 3-4 ans,
il a pris la
bille Verratti, au bout de 60 minutes, il était cramé et fallait le sortir. Souvent, en Ligue des Champions, on le sortait à la 60e, 70e. Et là, maintenant, 4 ans plus tard, magie, il peut faire 90 minutes alors qu'il a pris 4 ans en plus. Où est-ce que vous avez vu ça? C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi.
Il s'est calmé sur les clubs, tout simplement.
Bon, on avait une question tout à l'heure dans les commentaires qui disait, voyez-vous, est-ce que vous voyez Paris réussir à gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans?
Non.
Non, si on part sur un nouveau cycle dès l'année prochaine, un vrai nouveau cycle, parce que j'en vois toujours qui disent oui, mais chaque année on reconstruit rien du tout chaque année. Si on part vraiment sur un nouveau cycle, un vrai nouveau cycle cohérent, qu'on laisse les hommes travailler, que ce soit le directeur sportif, l'entraîneur, etc., oui, peut-être. Mais si c'est pas le cas, et ce sera sûrement pas le cas, non.
Non, mais pourquoi pas l'Europa League?
C'est son projet.
On y arrivera à terme, c'est certain.
Il y a quoi d'autre comme question? Y a Seb qui nous avait posé la question tout à l'heure. Il nous a dit quel entraîneur aurait mieux fait avec notre effectif actuel.
Bah Pochettino.
Pochettino.
C'est pas le même effectif.
Non, c'était pas le même effectif. Mais par exemple, Pochettino, tu peux voir un truc, c'est tout bête, hein, mais Pochettino avec Vitinha, ça aurait été tout à fait autre chose. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait avec Paredes. Paredes, il a été bon quelques matchs sous Pochettino. Depuis qu'il est plus sous Pochettino, il vaut quoi Paredes?
Nick s'en rappelle que Pochettino a éliminé Munich avec Baker, Dagba, Gay,
Diego. Par exemple, tu vois. Enfin, voilà quoi. Pochettino aurait fait bien.
Non, mais d'autres, bien d'autres.
Je sais que c'était normal de taper dessus, mais maintenant on peut peut-être réformer le logiciel maintenant qu'on a vu ce que ça donne avec
un vrai coach. Tout le monde fait mieux, mais Tourelle-Unai, ils font mieux aussi avec cet effectif. Tous les
anciens coachs tous, en fait. Enfin, pas tous, mais Galtier. Et encore une fois, c'est vraiment pas un jugement sur l'homme. L'homme, je le connais pas. Je parle vraiment des. Mais pour footballistiquement, il est sans doute plus compétent que moi. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai rien moi. Mais en vrai, le mec, à part 6 mois à Lille, ses matchs, ouais, ça a juste été des matchs de guerrier quand il était à Saint-Etienne, machin truc. Ça n'a jamais été des matchs envoyants. Il n'a jamais bien fait jouer ses équipes. C'est pas un mec qui sait faire, quoi. C'est tout.
Bon, l'année prochaine, vous donnez une deuxième chance à. Il y a qui ici qui donne une deuxième chance à Galtier avec tu lui retires Messi et tout ça dans les
matchs. Non, pour moi, c'est trop limité. Non.
Mais j'aime pas changer une deuxième chance.
Comme ça, mais non. Non, pour moi, donc il faut
là, installer. Vous êtes tous portés Galtier aussi... à la fin de la saison.
Mais cet été, il faut aussi prendre en compte qu'il y a le marché des entraîneurs. Souvent, le marché des entraîneurs, les étés, c'est... il n'y a pas grand choix. Là, cet été, tu auras beaucoup de choix. Il y aura pas mal d'entraîneurs libres, de renom. Tu auras des entraîneurs qui sont en délicatesse dans leur club, qui peuvent peut-être partir aussi. Donc cet été, c'est un tournant quand même sur le marché des entraîneurs. Donc sachant qu'on a un qui est défaillant, ou que tu ne vois pas vraiment d'avenir avec lui, ou que tu vois trop de choses limitées, etc., et que tu as un marché qui va être très ouvert. Pour moi, il faut en choisir un, mais après, il faut l'installer correctement. Parce que si c'est moins prendre et faire comme d'habitude, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas non plus.
D'accord. Il y a un truc super important, c'est Pochettino. En fait, pour en revenir sur lui, Pochettino veut partir au bout de 3 mois. Enfin non, c'était 6 mois, pardon, etc. On lui ferme complètement la porte et ensuite de ça, on le jette quand même mal propre. Le mec, il sortait de UK, il sortait d'Angleterre. T'inquiète pas que tous les coachs qui étaient en Angleterre, qui avaient l'habitude de se battre contre lui, ont vu ce qui s'est passé. Et par exemple, à titre d'exemple, un Klopp, même tu peux lui proposer des ponts d'or, il viendra jamais au PSG parce qu'il a très bien vu, il a vraiment vu ce qui s'est passé avec Pochettino et tu peux en être sûr.
Et même Ancelotti, le seul entraîneur de renom que tu as mis sur la sellette au bout de quelques mois.
Au-delà de Klopp, t'as un Conte qui va partir a priori de Tottenham, t'as un Luis Enrique qui est libre, t'as Gallardo qui est libre, t'as des profils, il va se passer quoi? On va prolonger Galtier, on va le virer l'année prochaine, il n'y aura plus aucun coach de libre.
Exactement.
Mais c'est Nasser va prolonger Galtier. Enfin, après, je peux être surpris.
C'est pas Nasser, hein. je crois que Nasser n'apprécie pas forcément Galtier. Hein. C'est là pour le coup, c'est plus derrière. Hein.
Nasser va rien changer, en fait, si tu veux ce que je veux dire par là. Ouais. Ce que je veux dire, c'est le mix entre les contraintes financières, le mix entre les coachs qui vont tout simplement nous dire non. Parce qu'ils ont vu comment ça se passe au niveau de la gestion des entraîneurs au Paris Saint-Germain. On commence vraiment à avoir des casseroles aux fesses à ce niveau-là. Je peux me tromper, hein, mais moi, je vois vraiment Galtier sur le banc l'année prochaine. Après, est-ce que c'est ce que je souhaite? Certainement pas, mais c'est ce qui va se passer. Ça, j'y crois.
Franchement, avec le fair play financier, je pense aussi que Galtier risque de rester parce que ça faudra virer...
On l'a
pas qui a dit qu'on doit lui payer 40 millions, il reste une année de...
Non, c'est, moins,
c'est pas 40
moins,
millions, c'est pas possible.
C'est 20 millions, je pense. Enfin, je sais pas, peut-être même moins, parce que Pochettino, c'était 20, alors qu'il aurait resté un an.
Luis Enrique, ce serait pas mal. Alors, dans les contacts de Compose, quel coach pourrait être tactiquement intéressant pour le PSG? Parce que c'est vrai que la question, elle est intéressante, parce que tous les coachs qu'on a dit ne sont pas forcément compatibles avec Compose. Peut-être qu'il y aura
un Compose les deux Mourinho. Ensemble, hein. Pour moi, tu vires Galtier, tu vires Campos avec. Pour moi, c'est un binôme.
Il n'y a personne. Il y a personne
un manager à l'anglaise, quoi.
Il n'y a personne qui est compatible avec Campos. Parce que Campos, il veut des coachs qui ne font pas trop d'histoire. Donc un Mourinho qui est manager général, ça, avec Campos, enfin, même s'ils sont plus ou moins amis, je crois, non, avec Sacramento et tout. Ils se connaissent bien, hein, Campos et Mourinho. Mais est-ce que ça marchera? Campos aura vraiment un rôle qui ne sert plus vraiment à grand chose. Ce sera Mourinho qui aura le pouvoir. Et puis sinon Campos il veut des entraîneurs régressifs, là, les Galtier, les Jardim, les Allegri, je vois pas qui peut marcher avec ça dans les profils actuels.
Ah, on n'avait pas pensé à Allegri. Peut-être.
Non, arrête tes bêtises, je vois plein de gens parler de manager à l'anglais, mais ça aussi je trouve c'est problématique parce que t'as un coach qui achète des joueurs qui sont bons pour lui. Ça veut dire qu'une fois que tu le dégages, bah en fait, le prochain coach qui arrive se retrouve avec plein de joueurs qu'il ne veut pas. Alors que quand tu as un DS, le DS, il voit à long terme, en fait. Il voit un style de jeu que l'équipe elle va garder, que ce soit ce coach-là ou un autre coach. Et quand tu recrutes un autre coach derrière, tu essaies de prendre un coach qui reste dans le même style de jeu. Le problème avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'à chaque fois, on prenait des coachs qui n'étaient pas dans le même style de jeu que le coach d'avant. Donc à chaque fois, tu es obligé de repartir à zéro et tu perds du temps. Là, il y a des équipes, ça fait, je sais pas, 4 ans, elles jouent en 3-5-2. Nous, chaque année, il y a un mec, il arrive, Pochettino, il est arrivé, il a dit, moi, je fais un 4-2-3. Hein. Après, il y a Gatti, il arrive, il veut faire un 4-4-2. On n'a pas de continuité avec un DS qui dit le style de jeu du Paris Saint-Germain, c'est ça, le coach, il arrive et il se greffe, c'est tout. Comme le Bayern, c'était rouleau compresseur, là, ça change avec Nagelsmann, mais ça a toujours été un peu le même Bayern.
Dans quel univers tu as un manager à l'anglaise qui peut fonctionner avec Nasser?
Bah, je sais pas, il s'entend bien avec Tourelle, à ce qui paraît, mais si c'est pour que Tourelle, il nous ramène des Kerrer à 35 millions et des je sais pas qui, des Gay et tout ça, en fait, Tourelle, en recruteur, il est éclaté au sol. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, peut-être il a été un bon coach au Paris Saint-Germain et tout ça. En recrutement, ce mec-là, il est nul. Donc, mettre manager à l'anglais, tu vas te retrouver avec plein de joueurs. Et Zidane aussi, ça rentre en compte pour Zidane, parce que Zidane, peut-être, il arrive à gérer un groupe et tout ça, manager d'hommes et tout. Mais oubliez pas le mec, il a pris Eden Hazard. Oubliez pas tous les achats qu'il a fait au Real Madrid. C'était pas des bons.
Jovic
qui est reparti. Mais ouais, vous donnez carte blanche à Zidane au Paris Saint-Germain, on va se retrouver avec des mecs archi bien payés et qui sont pas au niveau.
Non, mais le duo Klopp-Edwards, il peut être intéressant.
Ça, je prends.
Ils viendront pas.
Après, un Mourinho, ça peut le faire aussi, mais faut laisser bosser. Et est-ce qu'un caractère comme Mourinho, ils vont le laisser bosser? Après, ça peut aussi partir en live aussi. Mourinho, on le sait, une ou deux saisons, ça se passe plutôt bien. Après, la troisième, quatrième, c'est la débandade. Donc,
Moi, je tente le Gallardo. Alors oui, vous allez me dire encore que c'est pareil que les autres, etc. Sauf que Gallardo à River Plate a exactement le même concept. C'est avec un président qui était comme Nasser, qui flopait. Le club était même descendu en D2. Et le contexte supporter et le contexte politique de River est encore supérieur au contexte PSG.
Je connais pas assez personne.
Mais Gabon, arrête de forcer. Tu sais
très bien. Qu'il a Mbappé le ballon d'or, Gabon.
Mbappé n'aura pas le ballon d'or. C'est tout. C'est quoi cette question?
Très bien. Sa réponse, c'est Messi va être ballon d'or. Oui, Messi va être ballon d'or. On le sait, mais c'est bon. C'est bon.
Oh là là, c'est fou ça. Je sais pas de quoi on parle. Ah oui, les coachs. Bah, je vois pas quel coach.
Amorim, il y a Lassana qui propose Amorim. Amorim, déjà, il a refusé. Hein? Et de deux, moi je lui souhaite pas. Mais
dans ce cadre-là, Amorim, c'est juste pas compatible. Amorim, c'est la star de l'équipe. Et un ego surdimensionné, c'est injouable.
Quand Seysao serait plus compatible si tu te débarrasses de Neymar et Messi et qu'il a une équipe.
Pour le coup, si tu veux, dans l'optique année de transition, quand Seysao, ça pourrait être excellent.
Non, je te jure, Drixinho, que Tourelle et Nasser, ça s'entend bien. C'est par rapport à Leonardo que Tourelle, il a dégagé. C'était pas par rapport à Nasser.
Oui, c'est ça.
Ouais, j'ai vu quelqu'un qui a dit que Gay, il serait titulaire au Paris Saint-Germain. S'il te plaît, va regarder les matchs de Première Ligue. Je t'en supplie, va les regarder.
Il a été recruté d'Everton par les supporters cette année.
Il coûte un but par match à Everton, chaque match. Chaque match, il coûte au but. C'est horrible.
J'ai eu peur de mettre en avant, mais j'ai eu peur pour le cœur de Basto, en fait. Et c'est pour ça que je
l'ai
mis en avant. Quoi.
D'ailleurs, on avait Simbad qui était sur la chaîne avec nous avant, qui a fait un trade cette semaine. Et il te montre tous les joueurs qui ont quitté le Paris Saint-Germain et comment ils sont catastrophiques. Parce qu'à chaque fois, on nous dit, c'est nous, on tue les joueurs. Mais là, vous me parlez de votre Paredes, là, à la Juventus de Turin, c'est encore plus catastrophique.
Ouais, mais c'est le paradoxe. On va voir si, par exemple, Vitinha part et qu'il arrive dans un bon club, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, tout à coup, il va être bon, etc., etc. Ça dépend des coachs que tu as aussi, hein, ça.
Non, ça dépend le nombre d'années qui sont restés au PSG. Sur
Vitinha, aussi, aussi. Aussi, oui. Ça joue quand on parle, par exemple, Draxler, Herrera, etc.
Moi, je suis pour garder le coach à long terme. Mais juste, il faut bien choisir le coach. Faut pas garder un coach à long terme pour garder un coach à long terme. Tu ne vas pas dire que tu donnes 5 ans à Galtier parce qu'il faut garder le même coach. Non, je suis désolé. Allez prendre un coach qui a des idées de jeu claires et gardez-le 5 ans. Moi, ça me va très bien.
Mais répondre à Drixinho rapidement, moi, je suis aussi d'accord pour regarder un scotch pendant très longtemps. Il avait juste oublié un S au mot.
Pour répondre à Drixinho, le seul dirigeant à la hauteur des ambitions du club, c'était Jean-Claude Blanc et personne n'en parle, c'est ouf, lui aurait fait un très bon président, mais bon, Nasser et sa jalousie maladive l'ont mis dehors. On en a déjà parlé, on avait fait une vidéo d'ailleurs, je crois, sur le départ de Jean-Claude Blanc, mais on est tous unanimes pour dire qu'il a fait un travail exceptionnel et c'est un des meilleurs dirigeants qu'on ait pu avoir. Si on en est là aujourd'hui, c'est grandement grâce à lui. Malheureusement, voilà, c'est la gestion.
Mais est-ce que c'est un dirigeant de foot, Rico?
Non,
c'est un excellent dirigeant en termes de marketing, développement.
Mais si on en est là au niveau marketing, c'est ça.
Il est président de la Juve.
Porter des projets. Pas. Il a été président de la Juve en fait le temps de la construction du stade. Mais c'était pas le président effectif, c'était Agnelli, hein, Agnelli était déjà président. C'était le conseiller, mais justement sur tout ce qui n'était pas vraiment sportif à la Juve. C'était pareil, à la Juve, il a porté la construction de stade sur ses épaules. Quoi.
C'est quelqu'un à avoir dans ton organigramme, mais c'est pas lui qui va gérer le sportif.
Qui a dit ça? Zidane a ramené Hakimi au Real. Et c'est qui a fait Hakimi quitter le Real, s'il te plaît? C'est qui a dit que Hakimi n'avait pas le niveau?
C'est parce qu'il ne fait pas jouer les jeunes, en fait, Zidane. C'est ça le problème.
C'est qui a dit que Odegaard n'a pas le niveau et que maintenant Odegaard, c'est le numéro 10, quasiment le meilleur de PL? C'est qui a fait ça? C'est Zidane.
Arrêtez. En fait, Zidane, dans l'ancien PSG, dans le PSG de ces dernières années, il aurait été très bien pour gérer les égos, pour gérer les stars, etc. Le problème, c'est que si tu veux mettre une nouvelle politique en place, en faisant confiance aux jeunes, en faisant grandir les jeunes, en recrutant des jeunes d'Île-de-France, du centre de formation, d'en prendre à droite à gauche, tu vois, de donner la chance à des Nkunku, des Konaté, des choses comme ça que tu prendrais avant qu'ils partent dans des grands clubs, bah Zidane, c'est injouable. Zidane, c'est pas un entraîneur comme ça.
Ok, bah écoutez les gars, si vous avez plus de questions, j'en vois pas, je crois qu'on va arrêter. Il faut 90 millions. Bah, je vois pas de questions. Il avait pas le niveau et je kiffe Odegaard. Mais c'est pas une question d'avoir le niveau, c'est une question de voir le potentiel du joueur et peut-être tu le prêtes et tu le fais revenir. Là, concrètement, il a dit Odegaard, c'est pas bon. Dryas, tu pouvais le mettre président. Blanc, il est délégué au directeur sportif.
Je crois pas, hein. Je crois pas qu'il a été directeur sportif.
Non, non, mais il délègue. Président délégué avec un directeur sportif.
Ah, en soi, mais il a souvent été, en fait, Jean-Claude Blanc, et d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui, ça a souvent été un homme qui a été instruit d'une mission, et pas forcément d'un projet, mais plus d'une mission. Et dans le cadre de cette mission, il répondait. Il l'a fait pour les Jeux Olympiques, il l'a fait pour la Juve, il l'a fait pour le PSG. Alors là, j'ai oublié d'où est-ce qu'il est parti, mais il est encore en train de le faire. Et ce n'est pas le président. Et, en tout cas, ça n'a jamais été le cas. Alors après, est-ce qu'il peut le faire? Peut-être. Mais en soi, on n'a pas forcément d'éléments pour pouvoir dire oui, il peut le faire. C'est un autre rôle que le rôle du président. T'as moins besoin d'être présent. Un président, c'est celui qui sait déléguer et qui va savoir taper du poing sur la table quand il le faut. Est-ce que Jean-Claude Blanc a le profil idoine? J'en ai pas l'impression. Je peux me tromper, hein, parce qu'il est très compétent dans ce qu'il sait faire. Mais est-ce qu'il a le profil idoine pour être président? J'en sais rien, je ne pense pas.
Je réponds grave rapidement. Idrissa Gueye de retour, non, il a été vendu. Odegaard aujourd'hui au Real, tu le mets où? Je ne sais pas, il y a le milieu de terrain, il est en déchéance. Gundogan libre? Bah non, puisqu'il a signé avec le Barça. Et la dernière question du live, c'est quoi les postes à changer pour vous avec un vrai 11?
Et c'est quoi la question?
Attends, je l'affiche.
Les postes à changer?
C'est quoi les postes à changer pour vous avec un vrai 11?
Ça dépend comment tu joues, mais je sais pas, t'en as 8 quoi à changer.
De DC, de milieu et Messi et Neymar, ça fait 6. Ouais.
Ouais, pour moi, t'en gardes un des 3, un des 3 ou deux des 3, mais déjà en plus, il faut que tu puisses avoir, parce que Neymar, on sait, on va pas pouvoir compter sur lui, même si là, ils nous disent, oui, non, mais là, maintenant, avec la cheville opérée, ça va être mieux, je sais pas quoi. Il faut pouvoir ne pas compter sur Neymar, donc il te faut un profil délié aussi à côté, tu vois, typiquement, je sais pas, un Moussa Diaby par exemple.
Neymar n'est plus
ailleurs. Il te faut un numéro 9, il te faut un ou deux milieux vraiment tauliers en plus, un défenseur central en plus, un remplaçant à Nuno Mendes et de qualité
deux.
Parce que
bah, il y a Marquis qui part, donc il t'en faut deux des centraux.
De quoi?
T'as Marquis qui part, donc il t'en faut deux.
Ouais, si Marquinhos n'est pas prolongé. Effectivement, il en faudra peut-être un autre. Ou un jeune.
Ah ouais, c'est le problème. La première fois que je vois ça, il y a Eve qui dit Messi, Neymar, Mbappé, les trois doivent dégager. Radical la Eve. Ok.
Bah, écoutez, tout le monde est blasé hein, de cette saison. La saison, elle est très très blasante. Faut appeler un chat, un chat.
Ouais, non, mais je suis d'accord aussi avec le commentaire de Serge. C'est quand tu vois l'équipe de France qui fait deux finales de Coupe du Monde, quand tu vois le nombre de joueurs français jeunes ou moins jeunes qui font le bonheur de tous les clubs, les grands clubs étrangers, c'est pas normal d'avoir seulement Kimpembe au PSG et d'avoir après que des petits jeunes, enfin Kimpembe et Mbappé. c'est pas normal. Mais tu vois, tu parles de Thuram en dernier. On en revenait tout à l'heure à la MNM et les remplaçants. Bah, Marcus Thuram, il ne veut pas venir au PSG. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il va faire banquette. Donc, c'est ça aussi le problème.
Ok, les gars. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Ici, c'est Paris Central. Est-ce qu'Mbappé va rester ? Ça, j'en sais pas. Faudra lui demander.